J'aurais pu mourir, Arnie, et tu n'as rien fait pour m'aider.
Ma porte était verrouillée.
Et tu voulais empêcher cet homme de m'aider.
J'ai cru qu'il t'attaquait. Comment voulais-tu que je sache qu'il te faisait la respiration artificielle? J'aurais pu le faire, moi aussi.
Mais tu ne l'as pas fait. Il y a autre chose. Cette radio, elle ne passe que des vieux airs. Et il y a des fois, quand on s'embrasse, elle s'arrête. Comme si cette voiture était jalouse, Arnie. Cette sale bagnole!
Tony.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film.
Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Pourtant, j'étais fatigué.
J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul.
Elle s'appelle Christine.
J'adore ce nom.
Allez, viens, Arnie, il faut qu'on y aille maintenant, hein?
Mon connard de frère me l'a ramené en septembre 57. C'est là que sortent les nouveaux modèles, en septembre. Eh bien, elle était neuve à l'époque. Elle sentait la voiture toute neuve. Ce qui est bien la meilleure odeur au monde. À part une chatte, peut-être.
Bonsoir à toutes et à tous, et ben merci beaucoup pour cette salle bien pleine pour cette première séance, cette séance d'ouverture de la convention cinéphile. J'ai à ma gauche Jean-Baptiste Torret qui va vous présenter le film et qui va faire une rencontre après la séance, et puis Willy, le président de 97mm, à qui on doit cette manifestation. Il vous en dira un mot. Moi, je vais juste dire un mot de notre invité qui est un peu un habitué de l'Arvor, hein, quelque part, parce que tu, déjà à l'Arvor rue d'Entrain, tu étais venu quelques fois, aussi côté NB. Tu es donc écrivain de cinéma, historien du cinéma, cinéaste. On aura l'occasion de te réinviter bientôt parce que ton nouveau film Neon People devrait sortir en tout cas la rentrée prochaine, donc tu viendras encore une fois à Rennes avec grand plaisir, on t'accueillera. Jean-Baptiste Torret, je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'est sûrement des critiques et historiens de cinéma les plus passionnants de ces 30 dernières années, et il a écrit, oui je te dis ça, ouais, très bon, bah, tu sais très bien, je fais que de le dire à chaque fois. Ouais, non, t'étais pas très bon sur les 5 derniers mois, j'ai trouvé. Donc spécialiste de Mann, enfin qui a écrit sur Mann, sur Argento, sur Carpenter, et là qui vient à Rennes pour une occasion bien précise aussi, c'est qu'il a son premier bouquin, moi que j'ai lu à l'époque, c'était un très grand livre qui s'appelait Mythes et masques, les fantômes de John Carpenter, qu'il avait écrit avec Luc Lagier. Luc Lagier, vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez peut-être Blow Up, l'émission, la fantastique émission d'Arte dont il s'occupe, et c'était son premier ouvrage de cinéma. Bon, on y reviendra sûrement plus tard, mais très marqué par un langage universitaire, et tu as décidé, Jean-Baptiste a décidé de revenir un peu sur ce livre-là. C'est pas du tout une nouvelle édition, mais c'est une sorte de remise à l'heure de son rapport à John Carpenter, et c'est un bouquin absolument passionnant qui sera en vente demain lors de la convention et qui ouvre à 10h, et que vous pourrez vous faire signer, et Jean-Baptiste Torret vous fera des petits dessins dessus. Willy, un petit mot sur demain ?
Oui, bonsoir, et merci d'être venu en nombre pour cette projection. Pour cette ouverture de la nouvelle convention cinéphile de Rennes, la 5e édition, la 2e à l'Arvor. Avant, on était dans les bars, tout ça, on était plus petit, on avait moins de monde. Et donc cet événement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, a pour objectif d'être un moment de partage et de rencontre entre différents cinéphiles et de promouvoir la cinéphilie sous toutes ses formes. Là, principalement au travers d'éditeurs indépendants, qui font un travail remarquable en matière d'édition vidéo, de restauration comme de bonus vidéo, et aussi de rencontrer des collectionneurs, des auteurs, comme Jean-Baptiste, mais aussi Julien Dupuis de Capture Mag ou Simon Danielou, un universitaire. Et puis l'occasion de découvrir aussi des films que vous n'aurez peut-être pas forcément vus, et encore moins sur grand écran, comme Les Maîtres du Temps, Le Franc-Tireur, Le Terroriste et Né un 4 juillet. Voilà, tout au long de la journée, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, et je vais laisser Jean-Baptiste vous présenter ce petit film. Et si, une dernière question, oui, si, voilà, oui. Levez la main ceux qui n'ont jamais vu Christine. Ouais, quand même.
Les bandes de chanceux.
On m'avait dit que c'était un endroit sérieux.
Mais non, pas tu peux tout. Retourner à Paris directement.
Bon.
Bah, tu vas pouvoir faire encore ton parisien.
On va quand même faire un effort. Bah, bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Merci Antonin, merci Willy. Je vais dire peut-être un mot court, parce que vous êtes quand même effectivement assez nombreux à ne pas avoir vu le film, donc je ne vais absolument pas déflorer quoi que ce soit. Même si. Qui a lu le roman parmi vous? Voilà. Je dis voilà, mais ça n'apporte pas une nouvelle information. Non, Christine, en plus, alors Antonin mentionnait le fait que moi j'avais écrit mon premier bouquin il y a très très longtemps dans une autre vie sur John Carpenter par rapport à celui-ci. Et c'est vrai qu'en 98, quand j'écris ce premier bouquin, pour moi Christine est vraiment un film mineur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les grands films de Carpenter. Peut-être qu'on reviendra après sur John Carpenter, j'en parle comme si c'était un pote à vous. Mais c'est un pote à nous, John Carpenter, quand on aime le cinéma. Donc peut-être qu'on remettra les pendules à l'heure tout à l'heure, mais je vais un tout petit peu vite sur John Carpenter. Je vais pas expliquer qui c'est exactement. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, les grands films de Carpenter, c'était The Thing, Assaut, The Live, The Fog, auquel j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'affection. Et Christine, pour moi, était un film un peu de commande, réalisé au début des années 80, dans la grande vague des adaptations de Stephen King, parce qu'on sort évidemment de Shining, c'est le moment Dead Zone, c'est le moment Charlie Firestarter, vous avez peut-être vu ce film, que devait d'ailleurs réaliser Carpenter au tout début des années 80, mais suite à l'échec de The Thing, il s'est fait dégager. C'est dommage, parce que Charlie Carpenter aurait préféré adapter ce roman-là de King plutôt que Christine. Donc c'est la grande mode d'adaptation des bouquins de King. Tout a à peu près commencé d'ailleurs avec Carrie, hein, de Brian De Palma, et d'ailleurs que le jeu de l'adolescent que vous avez dans un film qui s'appelle Pulsion, vous avez peut-être vu, de Brian De Palma, Dress to Kill, en fait est le même qui joue le rôle d'Arnie Cunningham dans Christine. C'est un acteur qui s'appelle Kit Gordon, qui a fait deux choses dans sa vie, c'est tourné dans Pulsion et dans Christine, et c'est à peu près tout. Enfin, il a fait plein de trucs après, mais complètement oubliable, et c'est quelqu'un qui a travaillé quasiment coup sur coup avec Carpenter et De Palma. Donc tout ça pour dire que moi, quand je travaille sur Carpenter à la fin des années 90, Christine est plutôt un film mineur, voilà, qui m'intéresse pas beaucoup. Et en fait, j'ai mis, pour être tout à fait honnête, beaucoup de temps à comprendre pourquoi c'était un film important de Carpenter, tout simplement. Parce que même lui, en fait, bon ça c'est Carpenter, mais disait, oui mais Christine, je l'ai fait parce que grosso modo la raison pour laquelle il accepte de faire Christine, c'est le producteur Richard Kobritz qui lui propose de faire ça, c'est qu'il vient de sortir The Thing. Bon, vous connaissez tous l'histoire de The Thing, qui aujourd'hui est devenu, en tout cas pour beaucoup, le chef-d'œuvre de Carpenter. Film immense, mais qui connaîtra son succès par les vidéoclubs au fur et à mesure jusqu'à devenir un film culte et un film absolument immense. Mais à l'époque, c'est un échec critique et commercial absolument colossal, The Thing. D'autant que c'est la première fois que Carpenter collabore avec les studios, en l'occurrence Universal. Il avait commencé Carpenter au début des années 70, il fait des petits films d'horreur en indépendant, Assaut, qui a coûté 250 000 dollars, Halloween 360 000. C'est bien d'avoir les chiffres, parce que parfois on se dit « ouais, bon, je manque d'argent pour mon premier film, etc. » Ça peut ressembler à Assaut, un premier film avec 250 000 dollars. C'est ça que je voulais juste dire. Et en fait, il fait des petits films dans le giron indépendant, et peu à peu, il commence à avoir un peu de succès. Et puis, évidemment, il y a le coup de semonce Halloween en 78, qui va en faire d'un seul coup un des cinéastes. Halloween restera, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à Blair Witch, le film indépendant qui est le plus rentable de l'histoire du cinéma américain. Donc, évidemment, il commence à un peu intéresser les studios. Entre-temps, il a fait Fog, Escape from New York, et puis Universal se tourne vers lui en disant bon, il y a quand même un type là qui a l'air intéressant, il a plutôt bonne réputation, il termine ses tournages en temps et en heure, le public va voir ça, on va le chercher. Et donc c'est comme ça qu'il va réaliser son adaptation de The Thing. Carpenter donne tout sur The Thing. Le problème, c'est que le film sort à peu près au même moment, à quelques jours près. Évidemment, vous connaissez l'histoire que E.T. de Steven Spielberg. On est en 82, il y a la team E.T. puis il y a la team The Thing. Hein. Et malheureusement, l'Amérique, elle est plutôt du côté de E.T. On a plus envie d'avoir le film de Spielberg que le film de Carpenter. Et donc The Thing est un échec commercial et critique monstrueux, mais y compris critique. Hein. Je dis ça parce que commercial, à la limite, mais un échec critique où tout le monde assassine John Carpenter. Et ce film, The Thing, on pourrait presque dire, va inaugurer les relations toujours orageuses, conflictuelles, problématiques de Carpenter avec les studios. La carrière de Carpenter, c'est je suis dans le giron indépendant, je fais un film qui marche un peu dans ce giron-là, le studio m'appelle parce que ça a marché, j'y vais, je me prends une gaufre, je repars dans le giron indépendant, à nouveau les studios refont confiance, je refais un film qui se vautre. C'est toute l'histoire du cinéma de Carpenter. Jack Burton, Mémoire d'un homme invisible, à chaque fois qu'il est reparti vers les studios, il s'est planté. Sauf dans un seul cas, qui est le cas de Christine, qui est produit par la Columbia. Et donc, Carpenter, après Christine, il est au plus bas. À la fois, plus personne ne veut embaucher ce type-là. Le film a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, n'a rien rapporté du tout. Et donc, lorsqu'il va accepter en fait, la proposition que va lui faire ce producteur et Sharp Comics Christine, c'est vraiment parce qu'il lui faut du boulot, de façon extrêmement pragmatique. Et Carpenter le dit à l'époque, j'accepte de faire Christine parce qu'il faut que je travaille. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Carpenter est plus un lecteur de Lovecraft que de Stephen King. Il aime bien King, mais bon, c'est pas... Mais par contre, en bon artisan hollywoodien, il faut travailler, hein, faut remplir son frigo. Et c'est pour cette raison-là que Carpenter va accepter de réaliser Christine. Juste un mot, quand même, avant de se quitter sur le travail qu'il va faire. Parce que il y a, je dis que ça, parce que c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Le roman de King, en fait, fait l'hypothèse que, vous connaissez hein, vaguement quand même le pitch du film, à savoir une voiture qui tue. Bon, hein, ça fait pas un bon film. Il y a plein de merde avec des machines qui tuent. Là, c'est une voiture qui tue. Mais dans le roman de Stephen King, la voiture, elle tue parce qu'elle est sous contrôle du cadavre d'un ancien propriétaire, qui s'appelle Roland Lebay dans le roman. Et quand Carpenter et Bill Phillips, le scénariste du film, en fait, décide d'adapter le roman, Carpenter a deux idées. Un, il faut impérativement supprimer cette idée du cadavre présent. Il veut faire de Christine non pas l'objet, hein, on pourrait presque dire manipulateur, d'une sorte de fantôme ou de puissance maléfique. Hein. Non, Christine va être le mal à l'état pur. On n'a pas besoin d'avoir un cadavre ou de quelqu'un qui la dirige, etc. Et puis, il va inventer la séquence d'ouverture. La séquence d'ouverture, elle est complètement absente du roman, elle est complètement démente. Moi, je me souviens avoir découvert Christine quand j'étais ado dans un immense cinéma à Paris qui maintenant a fermé, qui s'appelait le Kino Panorama. Et l'ouverture de Christine, c'est des plus belles ouvertures de l'histoire du cinéma. Et même le plan d'ouverture, le plan générique... Hein, et vous allez voir, hein, et le bruit du moteur, ça c'est une idée absolument géniale, d'autant que Carpenter est l'homme qui compose quand même la musique de ces films. Et donc Carpenter, il apporte comme ça deux choses, à mon avis. Il y en a d'autres qu'il apporte, mais je ne peux pas vous en parler maintenant. Mais il y en a deux très importantes. Un, c'est de supprimer en fait le cadavre de Roland Lebay, ce qui fait que le film change complètement de perspective. Hein. Christine, elle est, vous allez le voir dès le début, hein, vraiment bad to the bone. Elle est maléfique à la racine, pas besoin de quelqu'un qui la dirige. Et il invente la séquence d'ouverture qui est très 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 importante pour toute la suite de la lecture du film, en fait. Hein. Je pense que vous allez voir cette séquence d'ouverture, elle oriente tout le regard qu'on peut avoir sur le film. Voilà, je vous en dis pas plus, si ce n'est que le film a été tourné à peu près dans le même quartier que Halloween. Hein, South Pasadena à Los Angeles, et ça se voit, et c'est volontaire de la part de Carpenter. Vous allez voir que le film se passe en 78. 78, c'est la date de sortie d'Halloween et la date où l'action d'Halloween se passe. Et c'est pas inintéressant d'avoir en tête que Christine est une sorte de cousin d'Halloween. Hein, voilà. Bon, j'en dis pas plus. Bonne projection. On se retrouve après pour un échange, pas pour des tunnels de ma part, mais pour un échange. Et juste à l'issue du film. En tout cas, merci de votre attention et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci.
Ok. Show me.
Eh bien, rebonsoir. J'espère que vous avez pris du plaisir. Bah merci, vous restez tous, c'est super chouette. Bon, écoutez, on va vous laisser la parole après si vous avez des observations sur le film, mais je voulais d'abord que Jean-Baptiste revienne sur, tu évoquais ça un petit peu en introduction, sur le rapport un petit peu fluctuant que tu avais eu à Christine entre tes premières visions à l'époque et puis au fil des années. C'est aussi, je le rappelle, un peu l'objet du livre, de revenir un petit peu sur Carpenter et ton rapport et tout, et puis des réévaluations et peut-être aussi des surprises, des films que tu aimes moins et pas forcément ceux auxquels on pourrait s'attendre. Donc ce rapport à Christine, comment il a pu évoluer? Est-ce que tu y vois maintenant par rapport à quand tu avais 9 ans, quand tu l'as découvert, un truc comme ça?
Oui. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je découvre le film, donc je suis plutôt un ado jeune en 83, et en fait, je pense que j'ai pas du tout conscience que c'est un film des années 80, en fait. Mais je pense que c'est sans doute le cas aussi pour vous. Quand le temps passe, on se dit, bah tiens, Christine, c'est un film qui appartient à une décennie, et quand en 83, on voit un film de 83, on n'est pas en train de se dire, bah comment est-ce que ce film se situe, en tout cas, en plus qu'on a mon âge, comment ce film se situe, en fait, dans le cinéma américain des années 80, avant même de parler de Carpenter, hein, qui à ce moment-là n'est pas forcément quelqu'un d'encore ultra identifié, même si moi je me souviens la chose que j'avais réussi à aller le voir indépendamment de l'interdiction avait été quand même un choc thermique monstrueux. Ça fait partie de ces films quand les cinéphiles disent toujours un peu, il y a un avant, un après, certains films. Pour moi, dans l'histoire du cinéma dit d'horreur ou de genre, The Thing, c'est comme Alien ou Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que la vie n'est plus la même quand on a vu ces films. Enfin, quand on est normalement constitué, je veux dire. Et en fait, quand je vois Christine, moi, en 83, j'ai pas conscience de ça. C'est la même année que Scarface. Il y a toute, on pourrait presque dire d'ailleurs un peu la même chose de Scarface, quoi. C'est que Scarface est aussi un film qui sort en 83 sur les années 80. C'est un des sujets de Scarface, c'est vraiment ça. Et c'est aussi un des sujets de Christine. Mais ça, c'est un truc, moi, à l'époque, que je vois pas du tout. Je vois vraiment comme un film, effectivement, de bagnole tueuse, avec le style inimitable de Carpenter. Enfin, la puissance de la mise en scène de Carpenter, qui est capable de transformer, quand il en forme, hein. N'importe quel matériau en or. Enfin, je pense que vous avez tous été sensibles, pour ceux qui avaient vu le film, ou je ne sais pas si vous connaissiez un peu Carpenter avant, mais le sens du cadrage de Carpenter, le sens de la mise en scène, le sens de la dolly. Le dolly, c'est ça, de très légers mouvements de caméra qu'il utilise quasiment systématiquement. Carpenter, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout faire des plans fixes en extérieur, par exemple. Il le fait un peu en intérieur, mais dès qu'on est en extérieur, la caméra bouge toujours un tout petit peu. C'est-à-dire, léger travelling, transversaux, on s'approche, on recule. Il y a toujours le sentiment que tout est en mouvement. Et comme on est souvent dans un cinéma de genre, il y a toujours quelque chose, une menace latente, un peu diffuse, où ça regarde, on ne sait pas trop, etc. Mais moi, ce qui m'avait vachement séduit, d'ailleurs, à l'époque, quand je vois Christine, indépendamment du plaisir, évidemment, de voir de films, c'est c'est l'élégance de la mise en scène de Carpenter. Je pense qu'il arrive à rendre, quand il est en forme, encore une fois, n'importe quel matériau absolument incroyable.
Il était souvent en forme, hein, quand même.
En plus, c'est le moment où il est. C'est-à-dire que moi, je me dis toujours, c'est bien gentil de faire des films en cinémascope, mais après, il faut savoir cadrer en cinémascope. Aujourd'hui, on voit plein de films, on voit beaucoup de gens qui utilisent le cinémascope parce qu'ils pensent que ça fait cinéma. Mais une fois qu'ils ont ils ont le scope, ils ne savent plus cadrer. Le nombre de films pas bien cadrés qu'on voit, c'est impressionnant, quoi. Et puis, par moments, on retombe sur un film de Carpenter, un film de Sergio Leone, ou un film de David Lean, ou un film de Michael Mann, et on se dit, ah ouais, cadrer, c'est un boulot. Enfin, faut une vision. Et Carpenter l'a complètement. Et moi, c'est ça qui m'a toujours, voilà, je fais des parenthèses, mais ce qui m'a toujours frappé chez Carpenter, c'est ça, c'est ce sentiment, quand on voit ses films, que le plan pourrait jamais être autrement que ce qu'il est. Et ça, je peux vous dire que c'est un test génial à faire quand on voit des films. Quand on commence à se dire, ouais, le plan est pas mal, mais il aurait pu mettre la caméra là, plus loin, plus proche, plus bas, etc. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une espèce de sûreté de la mise en scène de chez Carpenter qui est, que je trouve encore aujourd'hui, absolument fascinante. On se dit, quand on voit Christine, quand on voit Assaut, quand on voit Fogg, on se dit, mais il a systématiquement, mais ça, c'est le génie de l'homme qui a à chaque fois la vision, hein. Il sait exactement. Et il le dit lui-même d'ailleurs. Moi, j'ai été sur le tournage de deux films de Carpenter. Le dernier en date, c'était Vampire, à la fin des années 90. Et moi, je l'ai vu bosser pendant une semaine. C'était au Nouveau-Mexique. Et je me souviens, donc très détendu sur un tournage, Carpenter, plutôt blagueur. Quoique là, le tournage de Vampire, c'était différent, parce qu'il y avait James Woods. Il avait très peur de James Woods, qui est un type un peu ingérable, hyper gentil, hyper intelligent, mais un peu ingérable. James Woods, c'est quand on l'a sous le feu, l'essentiel du job de Carpenter, c'était maîtriser James Woods sur Vampire. Et moi, je me souviens qu'il arrivait sur le plateau. Il n'était pas en train de discuter avec le chef-op, il se mettait pas dans. C'était pas le génie contrarié qui allait trouver l'idée. Il arrivait, il disait, bon, la caméra, elle est là, elle va de là à là, ok, c'est bon, on y va. Mais vraiment, là, le type qui vient faire son travail et qui jamais n'avait le moindre doute, en fait, sur l'endroit où il fallait poser la caméra, à quel moment on a, en gros, c'était record, à quel moment on arrêtait, ce que faisaient les acteurs dans le plan. C'est assez impressionnant, en fait, à voir, mais comme presque une sorte de seconde nature. Hein. Alors, moi, j'ai été sur d'autres tournages où c'était pas du tout le cas. On sent que le réalisateur, il sait pas, il cherche le plan, il en parle avec son chef-op, et puis pourquoi on ferait pas ça, pourquoi pas. Comme on sait pas, on couvre dans tous les sens, on fait 25 fois la version d'une scène en fonction de plusieurs axes pour se dire que peut-être au montage, il y aura le bon plan. Or, on sait très très bien qu'à la fin, ce n'est jamais le cas. C'est que les grands metteurs en scène trouvent le plan juste. Et ce n'est pas en faisant 25 plans différents d'une même séquence qu'à la fin, par magie, au montage, on aura le bon plan. Et ce qui n'est pas le cas de Carpenter. Et moi, c'est ça qui m'a toujours fasciné. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Carpenter a été un cinéaste qui a autant inspiré d'autres cinéastes. Il n'a pas tant que ça, en fait, en réalité. Mais il y a un moment, enfin, je ne sais pas, vous en parlez avec des gens comme... Christophe Gans, je parle en France, hein, je sais pas, Boukrieff,
même Bonello,
Saada, enfin c'est que des gens qui ont tous un jour rêvé que leur premier film ressemble à Assaut. Voilà. Et qui a vu Assaut parmi vous? Ah, c'est bien.
Ils sont bien.
Ah ouais, là c'est vraiment un bon public. Non, mais Assaut, c'est un film qui est complètement fascinant de ce point de vue-là. C'est qu'on se dit, ce type, il fait le film. Je veux dire, il a 26 ans ou 27 ans. Il a déjà une espèce de sûreté, une précision dans la mise en scène, dans le cadre, qui est incroyable. Et notamment le cadre par Carpenter, c'est quelqu'un qui travaille le cadre par épuration. Il commence, et encore une fois, ça je l'ai vu sur Vampire, il arrive, il voit un décor et il retire tout ce qu'il ennuie dans le décor. Ça va pas. À la fin, il n'y a plus que les purs. Vraiment, c'est vraiment ça le style de Carpenter. Ouverture de The Thing, pour ceux qui s'en souviennent, la glace, un bidon, un hélico, un chien. Immense séquence d'ouverture, une des plus belles séquences d'ouverture de l'histoire du cinéma, à mon avis. Et pourquoi je raconte tout ça? Parce que donc c'est ça qui me séduit à l'époque, moi, dans Christine, et puis le plaisir aussi de ce film de genre, la bagnole, enfin tout ce qu'on veut. Mais ce que je vois pas du tout, en fait, et ça je mettrais beaucoup de temps à le voir, c'est combien c'est un film qui va inaugurer pour Carpenter une décennie difficile. Alors, Carpenter est un cinéaste qui vient des années 70, son premier film qui s'appelle Dark Star, qui est une espèce de film d'étudiant rallongé, qui est une pochade, on pourrait dire une version hippie fauchée du Docteur Follamour, pour faire très très court. Et son premier film, 76, donc c'est Assaut, ensuite Halloween en 78. Donc c'est un cinéaste qui commence dans les années 70, qui n'est pourtant pas un cinéaste des années 70, peut-être qu'on y reviendra. Hein, c'est un cinéaste anachronique, Carpenter. Dans les années 70, il est le seul à faire des films comme on le fait. À l'époque où il y a des gens comme Romero, Larry Cohen, Wes Craven, Joe Dante, Toby Hooper, Carpenter, il est complètement différent de tous ces gens-là. Les autres, on peut un peu les mettre ensemble, mais pas Carpenter. Il est vraiment à part, donc on pourrait presque dire qu'il ne s'adapte pas aux années 70, et il ne va pas non plus s'adapter aux années 80. Et je pense que Christine, c'est un film qui donc inaugure une décennie terrible pour lui, parce qu'après ça, il va faire Starman, film qui sera un échec, là encore, il essaie presque de se racheter auprès des studios en disant « Regardez, moi je peux faire un film familial », parce que ce n'est quand même pas le cas des films de Carpenter jusque-là, familial, qui un peu mélo, qui peut toucher des gens, je peux faire autre chose qu'un film de genre, le film se vautre. Hein. Ensuite, il fait Jack Burton, hein, alors là... plantade absolument phénoménale. Et puis ensuite, il va retourner dans le giron des indépendants pour faire deux films, son Prince of Darkness et Zélive. Hein. Un peu enragé d'ailleurs, il le dit lui-même à l'époque, c'est des films de la rage de Carpenter. Et donc c'est quelqu'un qui, dans les années 80, ne trouve pas sa place, tout simplement. Donc autant il y a des cinéastes qui vont être parfaits dans les années 80, qui vont être emblématiques, on pourrait dire, de la décennie, Spielberg étant un de ceux-là, Carpenter, pas du tout. Et moi, il me semble que dès Christine... pas The Thing, hein, mais dès Christine, en fait, Carpenter nous dit ça. Il nous dit, mais en fait, moi, j'arrive dans une décennie maintenant. J'arrive pas comme les cinéastes des 70 qui, eux, ont commencé fin 60, début 70, tous les Coppola, les Scorsese, Monty Hellman, enfin, tous ces gens-là, à l'HB, etc., qui vont vraiment souffrir, pour beaucoup d'entre eux, dans les années 80. Ça va être l'enfer pour eux. Carpenter, lui, comme il n'était pas complètement... En fait, il correspondait pas comme les cinéastes des 70, on aurait pu se dire, bah, son moment à lui, c'est peut-être la décennie 80. Et en fait, non. Et pour moi, toute l'idée de Christine, comme ça sera le sujet central de Zelive, enfin Invasion Los Angeles en français, c'est quoi ce nouveau rapport en fait des années 80 hein, aux années 50. Je pense que c'est le sujet qui va obséder en grande partie Carpenter au moment des années 80. Et pour moi, la puissance de Christine et de Zelive, ce sont deux films qui sont faits dans les années 80 contre les années 80. C'est vraiment la puissance critique, on pourrait presque dire, de ces deux films-là, c'est ça. C'est que ce sont des films qui vont prendre, on pourrait dire, dans leur collimateur, la question des années 80. Alors, pour terminer, pourquoi je dis ça ? Parce que le cinéma américain des années 80, il se caractérise, alors évidemment, je généralise, hein, il y aura toujours des contre-exemples à ça, mais globalement, le cinéma américain des années 80, il se caractérise par une sorte de retour aux années 50. Quand vous avez, je sais pas, que ce soit les Coppola, d'affaires entre Rusty James, Outsider, Peggy Sue, Coppola ne parle à peu près que des années 50 dans les années 80, Dangereux sous tout rapport de Jonathan Demme, il y a eu évidemment Grease, enfin tout ça à la fin
Retour vers le futur.
Retour vers le futur, qui est presque d'ailleurs, entre parenthèses, un titre programmatique. Les années 80, c'est Retour vers le futur. Voilà. Les années 80, c'est... je dis ça, mais vous le savez, mais je le rappelle quand même, c'est Reagan est élu en 80. Donc là, c'est changement de braquet total. Hein. On passe des années 70. Alors, après, il faudrait être précis, les années 70, est-ce que c'est toutes les années 70 ? Pas complètement, mais grosso modo, l'esprit des années 70 est complètement anéanti par les années 80. C'est même, les années 80 se construisent même contre les années 70. C'est même, je veux dire, on va réussir les années 80 parce qu'on va enterrer les 70s. Et donc Reagan est élu en 80, avec lui, c'est une autre vision, on pourrait dire, de l'Amérique, un autre rapport de l'Amérique, à la fois aussi bien à l'étranger, le rapport au monde, le rapport aux individus, l'American way of life, les nouvelles valeurs, le sens du héros, tout ce qui avait été, on pourrait dire, critiqué, qui est mis en crise par les années 70 d'un seul coup pour que ce blason-là soit redoré dans les années 80. Et donc, on va avoir Ronald Reagan qui, le premier mandat, c'est 80. Fin du deuxième mandat, 88, sortie de Zelive. Hein. Donc, on a pendant 8 ans, on va avoir le cinéma hollywoodien. Enfin, on pourrait citer un nombre de films incalculables, mais on parlait tout à l'heure de Rambo parce que quelqu'un parmi vous est en train d'écrire un livre sur Rambo. Je ne sais pas où est cette personne. Elle est là. Vous avez Rambo 82, donc un roman des 70, et vous avez Rambo 2, 3, 4 ans plus tard. On a l'impression qu'il y a deux siècles d'écart entre les deux films, idéologiquement parlant, je veux dire. L'un est un film qui est vraiment issu des 70s, l'autre est un film qui a plein pied, Rambo 2, dans la mission dans les années 80. Et donc toute l'idée du mandat des deux de cette décennie des années 80, ça va être, c'est le fameux slogan de Reagan, hein, mais quand même, le MAGA, le fameux slogan de Donald Trump, en fait, est un slogan que Trump reprend intégralement à Ronald Reagan, avec cette idée de rendre à l'Amérique sa grandeur, Make America Great Again. Et ce qui est intéressant dans le Great Again, il y a deux choses. C'est que, un, ça veut dire effectivement que l'Amérique, qu'elle a été formidable, grande, grandiose, etc., et qu'elle a été à un moment précis. Et ce qui est intéressant, c'est le again. Ah ouais, alors donc si elle a été à un moment précis, c'est quand ce moment-là ? Et pour les années 80, mais quand je dis les années 80, c'est aussi bien politiquement, cinématographiquement, ce grand moment, ce dernier âge d'or de l'Amérique, c'est pas du tout les années 70-60, c'est les années 50. Hein ? Donc ça, c'est vraiment, on peut lire à peu près toute l'histoire du cinéma américain des années 80 comme une tentative, on pourrait dire, de revival ou de résurrection. Hein, des années 50. C'est comme ça qu'on va retrouver la grandeur, c'est en retournant aux années 50. Et évidemment, en retournant aux années 50, on enjambe intégralement deux décennies qu'on veut supprimer de la mémoire, qui sont en gros les années 60-70. Hein. C'est quand vous allez aux États-Unis, encore aujourd'hui, j'ai mille fois fait l'expérience, vous demandez à des Américains que vous croisez, connus, pas connus, peu importe, vous leur demandez c'est quoi votre période de référence, pour vous, l'âge d'or c'est quoi, et bien, il y a l'Américain qui vous dit c'est les années 50, et puis l'Américain qui vous dit c'est les années 60. Et ça divise l'Amérique en deux camps, encore très utile pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe d'ailleurs. Et ça, cette espèce de distinction-là, elle est importante. Autrement dit, dans les années 80, cette espèce d'âge d'or qu'on va tenter de retrouver, c'est les années 50. Et les années 50, dans cette mythologie-là, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'était ça, dans cette mythologie, c'était le retour du héros, hein, le retour d'une Amérique impériale et quasi totalitaire, l'idée du consumérisme, le retour de la voiture, signe extérieur de richesse, l'arrivée du bodybuilding, enfin tout ce bordel, etc. etc. Enfin, Jane Fonda, elle est passée de l'opposition au Vietnam au fitness. Quoi, hein. C'est intéressant ce qui s'est passé avec Jane Fonda. Bon. Et, donc c'est ça les années 80. C'est vraiment, et évidemment, la question économique, Wall Street d'Oliver Stone, enfin le Yuppie tel que Carpenter va en faire la métaphore, mais qui ne sont pas le truc le plus intéressant d'ailleurs, de Zeliv. Et donc Carpenter, lui, il est, à ce moment-là, il voit que non seulement l'Amérique, mais le cinéma hollywoodien, en fait, c'est le soft power, on pourrait dire, des années 80, emboîte le pas de ça. Top Gun, tu vois, un des films, moi, quand je découvre Top Gun dans les années 80, ça me tombe des yeux. J'ai jamais réussi à trouver ce film culte, par exemple. Hein. Moi, je trouve ça un film atroce, quoi. Et Top Gun, c'est un film absolument emblématique des années 80, comme tu le disais, Retour vers le futur. Et donc, Carpenter, lui, quand il fait Christine, on est en 83, il a sans doute la préscience de ça, et il se dit, OK, c'est ça les années 80, qui sont en gros en train de nous dire que l'Amérique va retrouver sa grandeur en allant repuiser dans les années 50, et il nous dit, moi, je vais vous montrer ce que c'était que les années 50. Et c'est ça le grand sujet de Christine. C'est pas une bagnole qui tue, ouais, d'accord, bon, très bien. C'est même pas forcément la lecture féministe hyper évidente, hein. Avec le V de vagina qu'on voit au début du film. Ok, bon. C'est le rapport de Carpenter aux années 80. Et on voit que si une fois qu'on a cette focale-là, hein, et focale que moi j'aurais très tardivement, hein, entre parenthèses, hein, quand j'écris le premier bouquin, alors là, tout ce que je te raconte là, j'en ai absolument aucune idée. Et d'un seul coup, ça me semble évident que le sujet de Christine, c'est on va voir à quoi ressemblent ces années 50 que l'époque. D'une certaine manière, est en train de tenter de faire revivre ou de valoriser. Et lui, il va filmer la face noire des années 50. D'ailleurs, il y a entre parenthèses un autre cinéaste auquel moi je pense toujours quand je pense exactement à ce film et à Zeliv, qui est évidemment avec Clint Eastwood, quand il tourne Un monde parfait, vous avez peut-être vu. Hein, Un monde parfait, c'est un film là-dessus. Un monde parfait, c'est un titre ironique. Ça veut dire un monde imparfait. Et le monde imparfait, c'est les années 50. Hein, quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Un monde parfait se passe la veille de l'assassinat de Kennedy, donc en novembre 63. Et donc, le titre ironique étant, oh là, avant Kennedy, le monde était parfait. Et puis Kennedy est assassiné, et là on va rentrer dans la crise, l'ère du doute, le Vietnam, enfin tout ce qu'on sait. Quoi. Et en fait, Eastwood nous dit non, pas du tout. Quand on regarde Un monde parfait, on y va rentrer dans cette espèce d'innocence fantasmée d'avant JFK, et il va nous montrer ce que c'est que ce monde parfait, qui est terrifiant. Et c'est le programme d'Un monde parfait. Et moi, il me semble qu'Un monde parfait, Christine et Zeliv, ce sont des films qui racontent à peu près, on pourrait dire, la même chose. Avec un autre aussi, film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Something Wild, donc Dangereux sous tout rapport, qui est un film de 88 de Jonathan Demme. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça vous dit quelque chose, ce film? Non? Il va sortir bientôt, en Blu-ray, etc., etc. Regardez-le, parce que c'est aussi un film qui est sur la même feuille de route, on pourrait dire, esthético-politique, si on veut. Quoi. C'est vraiment les mêmes films, tout ça. Et donc, ça va être le projet de Christine. Ça va être de se dire, maintenant, je vais, moi, vous montrer les années 50 dont vous rêvez. Et les années 50, c'est une Plymouth Fury de 57 qui prend naissance à Détroit. Et Christine, indépendamment, on pourrait dire, de la métaphore féministe, qui est aussi là d'ailleurs, hein. Je veux dire, Carpenter a toujours été un cinéaste de femmes fortes, à la fois de vrais héros westerniens classiques, hein, et de femmes fortes. En fait, chez Carpenter, il y a à la fois, on pourrait dire, John Wayne et puis Lauren Bacall dans Two Women Have Not, quoi. Hein, il choisit pas. Il prend les deux en même temps. Il aime les personnages forts et compétents, Carpenter. Donc, quand un homme rentre, c'est pour être un héros, il n'est pas faible. Et quand une femme rentre, elle est professionnelle, elle ne gêne pas, elle n'a pas peur. Voilà, ça, c'est le héros Carpenter type. Et c'est intéressant de voir que quand il va décider de retourner comme ça sur Christine dans les années 50, il fait de Christine une forme d'incarnation maléfique, noire ou négative des années 50. En fait, la vraie métaphore, le symbole de Christine, c'est vraiment ça. C'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, un des ajouts de Carpenter, il y en a plusieurs, mais un des ajouts importants, c'est vraiment cette séquence d'ouverture-là, parce que cette séquence d'ouverture-là, elle donne le programme du film. Hein. On arrive à Détroit, 57, chaîne de montage, avec une photo en plus qui est très particulière, qui est un peu comme ça, sépia, irisée. En fait, Carpenter s'est beaucoup inspiré en fait, des films hollywoodiens des années 50. Et pour être précis, il s'est même inspiré d'un téléfilm que lui avait tourné en 79, qui s'appelle Le Roman d'Elvis, pour la chaîne ABC. Vous avez vu Le Roman d'Elvis ?
Ouais. Bah, c'est plus rare, ça, quand même.
Non, c'est plus rare, oui, c'est plus rare. Alors, Le Roman d'Elvis, c'est une série de biopic, si vous voulez, sur les débuts, on pourrait dire, d'Elvis Presley. Et c'est Kurt Russell qui joue le rôle d'Elvis Presley. D'ailleurs, entre parenthèses, à l'époque, qui lui ressemble terriblement. Hein. C'est très impressionnant de voir Kurt Russell en 79 jouer Elvis Presley. Et Elvis Presley, d'ailleurs, passe son temps dans le film à regarder des westerns et à regarder La Fureur de Vivre. Je dis ça parce que vous avez tous repéré dans Christine les multiples références au film de Nicolas Ray. Et notamment, le blouson que va finir par porter Arnie Cunningham est le même blouson que James Dean dans La Fureur de Vivre. Autrement dit, Arnie Cunningham, dans le film Kit Gordon, c'est un personnage qui commence le film en 78 et qui le termine, on pourrait dire, au début des années 50. Et physiquement, il se transforme en personnage des années 50. Alors qu'il a toute le blouson, le gel sur les cheveux, la façon de se comporter, etc. C'est un film qui, comme le compteur kilométrique de Christine, c'est un personnage qui, comme le compteur kilométrique de Christine, en fait, ne cesse de retourner en arrière et il atteint son point d'orgue, Arnie Cunningham, qui est son point de mort, exactement lorsqu'il devient héros des années 50, lorsqu'il revient, il devient James Dean, et le moment où il y a même un moment où il rudoie son père, qui est vraiment une reprise exacte d'une des séquences de La Fureur de Vivre de Nicolas Ray. Donc c'est vraiment un film qui nous raconte en permanence, et pour moi c'est ça sa puissance, Christine, c'est en permanence le rapport, c'est quoi ce rapport américain, enfin hollywoodien, mais américain, entre les années 80 et les années 50. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?
On va peut-être passer le micro, parce que si on le laisse parler, ça dure une heure. En même temps, c'est super intéressant.
Même plus, voilà. Hein.
Il y a des questions, observations ?
Bah, déjà, merci à vous pour cette soirée. C'est vraiment un plaisir de vous revoir, Christine, en grand format. Et oui, comme vous le disiez, ça me faisait penser à comment Stallone...
Rambo.
Rambo et aussi Rocky, parce que le premier Rocky, l'histoire d'un loser, voilà, qui va perdre son match mais qui s'est battu, et Rocky 2 qui n'a rien à voir, qui a tout gagné, etc. Deux films vraiment très polarisés, si je puis dire. Et du coup, pour revenir à Carpenter, le riganisme. Qu'on voit aussi avec New York 97, où Donald Pleasance, qu'on pourrait comparer à Reagan ou même le président des années 70,
Carter,
voilà, c'est ça, qui a fait une prison, qui a fait de New York une prison, super film, et Et que dire, et même dans les plus mauvais films de Carpenter, si je puis dire, son nanar des années fin 80, qui se passe à San Francisco, Jack Burton, ouais, c'est ça. Il y a quand même du plaisir, il y a quand même une patte.
J'oublie ce que vous venez de dire là, j'écoute pas ce que vous venez de dire là. Sur le côté nanar, Jack Burton, mais c'est pas grave, continuez, mais là j'oublie tout ce que vous venez de dire.
Mais en tout cas, je compare un peu à Convoy, l'histoire du camionneur, toujours aussi, un plaisir. D'accord.
Grand film.
Oui, tout à fait, oui, avec Christopherson. etc. Donc ouais, mais merci encore pour ces soirs et voilà.
Non mais je peux juste dire un mot alors enfin sur la alors il y a plusieurs choses effectivement vous avez raison sur le côté Rocky 2 mais vous savez c'est un peu comme il y a comme ça des ruptures dans l'histoire du cinéma qui sont assez drôles parce qu'il y a des suites ou des franchises qui permettent de bien prendre la température de ça. Vous savez, ça me fait penser, vous avez raison sur Rocky 2, évidemment, ça c'est le truc est flagrant, mais dans à une autre époque, je sais pas si vous avez vu les Tarzans. Les premiers Tarzan, ça, vous voyez, ça vous dit quelque chose. Et quand vous comparez Tarzan, qui est un film qui date de 32, et Tarzan et sa compagne, qui date de 34. Et là, vous regardez les deux, vous dites, il y a un problème. Il s'est passé quelque chose entre 32 et 34. En 32, Tarzan, il est en peau de bête, et Maurice Sullivan, elle est en peau de bête, elle ne porte quasiment rien sur elle. En 34, dans Tarzan et sa compagne, Maureen O'Sullivan, on dirait un Esquimau, elle a une combi comme si elle partait en Alaska. Et pourtant, on est toujours dans la jungle. Et on se dit, il s'est passé quelque chose, parce que les films le prouvent à ce moment-là, qui est évidemment le moment où le code, le fameux code ACE, va entrer en vigueur. Hein, c'est le fameux âge d'or, peut-être un des tout premiers âges d'or du cinéma américain, qui est le moment, on pourrait dire 30-34, qui est le moment du pré-code, c'est le moment où il n'y a pas le code. Donc il y a une liberté totale des cinéastes américains, et il n'y a pas de film avant la fin des années 60 plus moderne que les films réalisés entre 30 et 34. En termes de subversion, politiquement, en termes de violence, en termes du sexe, etc. C'est les films les plus dingues, c'est entre 30 et 34. Après, tout se referme, et puis ça se réouvre en gros à la fin des années 60, justement avec un peu la chute du code. Donc on retrouve comme ça des films qui montrent très bien que quelque chose, d'une certaine manière, s'est passé entre les deux films. Après, alors vous dites New York 97, oui, alors moi je pense plutôt que New York 97 est quand même un film, d'abord qui est un western, on pourrait presque dire comme la plupart des Carpenters, on sait que Carpenter adore le western, c'est un amoureux des films de War Dogs, et on pourrait dire qu'il aime le western, pas uniquement parce que les cow-boys, les indiens, les chevaux, etc. Il aime le western classique, il faut quand même préciser, c'est pas le western critique des années 70, c'est le western classique en gros d'avant la fin des années 50, en gros d'avant la prière du désert 57, hein, à peu près. Et parce que c'est un certain type de rapport, on pourrait dire, au code d'honneur entre les individus, d'avant la loi, je vais un peu vite, mais c'est un peu ça, d'avant la loi, la loi imposée par la civilisation et la loi toujours adossée, en fait, aux intérêts économiques des puissants. Moi, ça m'amuse toujours quand je revois, par exemple, Liberty Valance de John Ford, un film qui date de 62. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce film-là, il y a vraiment une opposition entre James Stewart, dans le film, qui veut apporter la loi. Hein, il fait ses études, il a ses bouquins de loi, etc., etc. Et puis Lee Marvin, qui est vraiment le bandit du vieil Ouest. Hein. Et cette opposition entre les deux, de cette manière, je pense que Carpenter, un peu comme Peckinpah d'ailleurs, est du côté de Lee Marvin. Il n'est pas du côté de James Stewart. Hein. Parce que pour lui, la loi et tous ses films vont le montrer. Et là, c'est encore le point commun entre Carpenter et Peckinpah. La loi, elle est toujours au service des intérêts des puissants. Donc, il ne reste plus que des codes d'honneur hein, entre des hommes qui se retrouvent, qui partagent des choses communes, indépendamment de la question de la loi. D'où l'alliance dans Asso entre le prisonnier et le flic. On s'en fout que l'un soit du côté de la loi et l'autre soit de l'autre côté. Par contre, ces hommes-là, ils ont des trucs à partager. Ça, c'est une forme d'héroïsme ancien que John Carpenter va tenter d'une certaine manière de remettre en scène dans les années 70. C'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, Carpenter, c'est un cinéaste qui n'est pas de son temps dans les années 70, parce que les années 70, c'est tout le contraire. C'est l'idée que bah, le héros américain est devenu un héros problématique, qui est dans le gris, qui justement n'est pas héroïque, qui se cherche, qui est en crise, etc. Il n'y a pas un cinéma moins héroïque que le cinéma des années 70. Quand Carpenter débarque, avec notamment un film comme Asso, on se dit, mais d'où sort ce type-là? Il fait un film qui est totalement à contre-courant du cinéma des années 70. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Carpenter a fait un court-métrage en 70 qui s'appelle The Resurrection of Bronco Billy. Enfin, il l'a coécrit, il l'a monté, mais c'est comme s'il l'avait fait, qui a eu l'Oscar du meilleur court-métrage d'ailleurs en 70, à l'époque où c'est études de cinéma, et qui s'appelait The Resurrection of Bronco Billy. et c'est ça, c'est symptomatique, il a choisi d'appeler son film La résurrection de Bronco Billy. Donc Carpenter, lui, le western, on pourrait dire critique à la Jeremiah Johnson, Little Big Man, même Macadam Cowboy, Soldat Bleu, etc., etc. Ça l'intéresse pas. Lui, il adore le western classique. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il va retrouver, d'une certaine manière, ce sens de l'héroïsme-là. Kurt Russell, dans Escape from New York, Escape from LA, mais dans Escape from New York, c'est un vrai héros de western qui arrive dans une société contemporaine qui, elle, ne sait plus quoi faire de l'héroïsme. C'est pour ça que le rôle du président, il est intéressant dans Escape from New York, Donald Pleasance. Parce que Carpenter nous dit, OK, si le président américain, et a priori, est la figure... Hein, et on est loin de Lincoln, quoi, grosso modo. Si c'est la figure tutélaire, c'est le modèle pour tout le monde, etc. Si c'est ce type-là, hein, un type un peu lâche, veule, peureux, à ce moment-là, cet héroïsme-là, on n'en veut pas, de cette manière. Et le film, il oppose un héros qui est un hors-la-loi face à un type qui est du bon côté de la loi, mais qui est un héros fragile. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est tout le mouvement du cinéma de Carpenter, de certaine manière, c'est de recréer, de cette manière, c'est de dire... C'est pour ça que moi, ça m'avait beaucoup intéressé quand on lit beaucoup sur Carpenter, on dit il a des personnages d'anti-héros. C'est souvent un truc qu'on lit, ça, sur Carpenter. Mais quand on réfléchit deux secondes, on se dit, mais pas du tout. C'est pas des personnages d'anti-héros, c'est que c'est des personnages qui sont des héros à l'intérieur d'une société qui elle-même est devenue anti-héroïque. Ce sont eux les vrais héros. Hein. C'est quoi être un anti-héros quand les héros ressemblent à Donald Pleasance dans Escape from New York? Donc en fait, c'est des héros, mais d'autrefois. Des héros de l'époque classique, si on veut. Et une dernière chose que je voulais dire par rapport à cette question du passage aux années 50, c'est que Christine, elle incarne, si vous voulez, cette force négative des années 50. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Carpenter, il est né en 48, dans l'État de New York. Et très jeune, il va, avec ses parents, il va déménager dans le Kentucky. Le Kentucky, je ne sais pas si vous voyez où c'est sur la carte américaine, c'est plutôt à l'est, c'est en bas, c'est dans le sud, c'est en bas des Appalaches. C'est vraiment un état sudiste, disons pas ultra progressiste, voilà, pour user beaucoup d'euphémisme. Bon. Et pour John Carpenter, lui, il a été enfant. Hein, dans les... Et on voit bien que l'enfance qu'a vécu Carpenter dans les années 50, ce n'est pas l'enfance de Joe Dante. Je dis ça parce qu'ils sont à peu près de la même génération. Et Joe Dante, il a un rapport aux années 50 beaucoup plus amusé, qui est beaucoup plus joyeux d'une certaine manière, ou plus ironique. Je pense à un film comme Panic à Florida Beach, Matini, qui est un film génial où Joe Dante raconte son enfance dans les années 50. Carpenter, lui, les années 50, c'est pas ça. Les années 50, c'est le Kentucky, c'est le sud raciste, c'est loi Jim Crow, c'est le lynchage d'Emmett Till en 53. C'est extrêmement violent. Et quand Carpenter pense aux années 50, il pense à son enfance. Et pour lui, c'est pas du tout les années 50 que les années 80 veulent vendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui, son rapport aux années 50, c'était l'enfer, les années 50. Donc, un film comme Christine, ou plus tard comme Zélive, en fait, on pourrait presque dire, puise véritablement dans le sentiment qu'a John Carpenter, qui lui, et il l'a souvent dit, moi, quand j'étais gamin dans les années 50, c'était l'enfer. Je viens de l'Est, bon, je viens de l'État de New York, je débarque dans le Kentucky, c'est horrible les années 50. Hein. C'est vraiment, en plus, dans cet état-là du Sud. Bon. Et donc, il a gardé ça en tête. Cette mythologie que les années 50, ça a été un âge d'or formidable, lui, il a vécu exactement le contraire. Et donc, il fait de Christine une version noire des années 50. Et Christine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle est la métaphore absolument géniale de la façon dont les années 50 vont vampiriser les années 80. Hein, c'est ça le sujet de Christine. Hein, et vampiriser, d'ailleurs, la métaphore du vampirisme est omniprésente dans Christine. Hein, que ce soit le visage d'Arnie Cunningham, le passage de l'un à l'autre. Enfin, c'est un des grands modes opératoires du mal, si vous voulez. C'est le vampirisme. Et ce que nous raconte Carpenter dans Christine, c'est... finalement, le rapport entre les années 80 et les années 50, c'est pas les années 80 qui vont chercher les années 50, c'est les années 50 qui vont vampiriser littéralement les années 80 et les mettre à mort. C'est pour ça que c'est un film qui est extrêmement sombre de ce point de vue-là, Christine. Et Christine, c'est l'incarnation de ça. Elle date donc de 57. On l'a vu au début dans sa machine, dans sa ligne comme ça d'assemblage. Et en fait, elle n'est qu'une incarnation, on pourrait dire démoniaque, de ce que les années 50 vont faire aux années 80. Et Arnie Cunningham étant évidemment le personnage qui, lui, pensant acquérir de la puissance, séduire les femmes, gagner de la confiance en soi, etc. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les années 80, qui arrive. Il se dit, bon, ben, il faut redevenir quelqu'un des années 50 pour arriver à tout ça, puisque notre modèle, c'est les années 50. Et tout le trajet du film, c'est de dire, ben, voilà ce qui lui arrive. Comment? Parce qu'on est dans un film de Carpenter. Et dans un film de Carpenter, ce qui caractérise aussi la question du mal, et là en l'occurrence de Christine, le mal c'est quelque chose qui fait le vide autour de soi. Et Arnie Cunningham, c'est un personnage qui peu à peu, à force de cette relation pathologique avec la bagnole, en fait fait intégralement le vide autour de lui. Donc c'est un film, Christine, qui est assez prodigieux là-dessus, et qui se termine par la phrase évidemment emblématique « Je hais le rock'n'roll hein, », et que dit Alexandra Paul dans le film, parce qu'il y a deux... Il y a deux femmes hein, dans le film. Il y a Christine et puis il y a Alexandra Paul. Hein, il y a Lee. Il y a les deux. Lee, d'ailleurs, je le rappelle, qui s'appelle comme ça en hommage à Lee Brackett, la scénariste de Fino Ward Hawks. Bon. Et on voit que c'est les deux en fait, types de féminité hein, qui s'opposent dans le film. D'un côté, elle et Lee. Et pourquoi je déteste le rock'n'roll? Moi, j'ai mis du temps à me dire, mais pourquoi à la fin, elle dit ça? Bon, oui, d'accord, à chaque fois, elle a failli s'étouffer en mangeant un sandwich au jambon, c'est la faute du jambon, j'en sais rien, les années 50, bon. Et en fait, on se rend compte que, Christine est presque une sorte de fausse comédie musicale. C'est-à-dire que finalement, toutes les chansons qui sortent de l'autoradio hein, de Christine sont des chansons des années 50. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs, hein, c'est que à aucun moment on entend des chansons, il y a la musique de Carpenter et elle, mais elle est vraiment un pur produit comme ça des années 50. Et toutes les chansons sont des commentaires, un peu comme des chœurs antiques, de tout ce qui est en train de se passer quand vous écoutez. Est-ce que la version que vous avez vue, les chansons sont sous-titrées là ou pas? Non. Alors ça c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage, mais parce que c'est hyper intéressant d'écouter les paroles des chansons. Hein. Il y a le titre, bon, vous avez quand même compris que à chaque fois Christine lance un titre hein, exprime sa pensée, ce qu'elle est en train de faire. La chanson, c'est vraiment comme un cœur antique, c'est le commentaire à ce moment-là de ce qui est en train de se passer d'une certaine manière. Donc, en fait, il y a cette espèce de comédie musicale, on pourrait presque dire un peu manquée, mais cette utilisation du rock'n'roll permet aussi, pour moi c'est le niveau 2 de la finesse en fait du film, c'est qu'il nous dit ok, les années 50 ça a été un cauchemar, il y a eu des années 50 qui ont été un cauchemar hein, alors qu'on essaie de nous vendre cette espèce d'âge d'or qu'il faudrait retrouver, lui il nous dit pas du tout, les années 50 ça a été l'enfer, mais il y a quelque chose d'autre qui nous dit et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit aussi un film qui soit un film de jeunes, d'une jeune génération. Après, on parlera peut-être de la question du rapport temporel au film, parce que quand on voit le film, on se demande en permanence à quel temps appartient le film. Même si, de façon ironique, le film nous dit au début, alors Détroit 57, bon ça on veut bien le croire, après Rock Ridge, qui est une ville imaginaire, 78, moi quand je vois le film, j'ai pas l'impression que je suis en 78. Hein, il y a tout un jeu, on y reviendra, hyper fin, sur la difficulté d'identifier temporellement Christine, à quel moment ça se passe, etc. C'est un film complètement étrange de ce point de vue-là, que moi, chose que je trouve absolument géniale. Mais on se rend compte que le rapport donc, à ce rock'n'roll aux chansons, c'est aussi une façon pour Carpenter de nous dire, et d'où l'importance de la jeunesse, finalement, il y a deux jeunesses qui se sont opposés dans l'histoire américaine de ces 30-40 dernières années. Il y a la jeunesse des années 50, qui est effectivement la jeunesse du rock'n'roll, qui est la jeunesse, en gros, d'Elvis Presley. Et Elvis Presley, vous avez peut-être vu le biopic... vous avez peut-être vu ce biopic sur... qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est Baz Luhrmann qui a fait le biopic sur Elvis, hein, qui n'est pas si nul, d'ailleurs. Non, c'est pas si nul. Et c'est intéressant parce qu'il y a un moment, il y a une séquence dans ce film-là où on voit, ce qui est vrai d'ailleurs, combien les déhanchements d'Elvis, les postures du bassin d'Elvis vont créer le premier scandale. Bon. Pourquoi je mentionne ça? Parce que Elvis Presley est quelqu'un d'important dans la carrière de Carpenter. Encore une fois, il a fait ce biopic-là, etc., etc. Mais aussi parce que, d'une certaine manière, c'est une façon pour Carpenter de nous dire la jeunesse des années 50, est-ce qu'elle menaçait vraiment l'ordre établi? Ça, c'est vachement intéressant. En gros, quand je regarde La Fureur de Vivre, est-ce que le système est menacé par James Dean et sa bande, et Sal Mineo, etc., etc. Réponse, non. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup le film de Nicole Arré en tête, mais ça vaut le coup de l'avoir, parce que c'est un film qui est quand même, à la fin, nous dit, finalement, les parents n'ont pas bien su éduquer ces gamins, il faudrait les remettre dans le droit chemin, leur enlever un petit couteau à cran d'arrêt, trois gifles, et c'est reparti comme un 40. Ça, c'est la jeunesse subversive des années 50. Autrement dit, jeunesse que le système américain, en fait, a parfaitement intégré et a su intégralement résorber. En fait, ça va. Si c'est ça, la révolte de la jeunesse dans les années 50, tout va bien. Mais il y a évidemment une autre révolte qui va apparaître à la fin des années 60, qui n'est pas du même acabit. Quand vous connaissez un peu l'histoire américaine, la révolte de la fin des années 60, aussi bien des blancs que des noirs, des hippies avec un Y, que des Black Panthers, etc., ça secoue beaucoup plus fortement les fondements du système américain. Hein. Et d'ailleurs, aussi bien la démission de Nixon que la guerre du Vietnam sera en grande partie perdue par cette révolte de la jeunesse américaine. Et Carpenter nous dit, évidemment que les années 80, elles ont intérêt à retourner aux années 50, parce que c'est une jeunesse révoltée, mais inoffensive. C'est ça le rock'n'roll. C'est ça que nous raconte le film. Alors que les années 60... Hein, elle, c'est une jeunesse subversive, beaucoup moins contrôlable et beaucoup plus dangereuse. C'est pour ça que les années 80, je le redis, mais c'est hyper important d'avoir en tête, se sont vraiment construites contre les années 70. C'est-à-dire que c'est vraiment deux décennies, on pourrait presque dire, qui tirent dans deux directions complètement opposées. Et le film, d'une certaine manière, nous raconte ça aussi. Hein. C'est pour ça que, je parlerai peut-être après de la question du flottement temporel, qui, moi, me semble... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti d'ailleurs, mais je vous laisse parler.
Alors déjà, je vous remercie notamment pour votre analyse qui a pour moi complètement changé ma lecture de Christine. Hein, que je pense que pour moi, c'était juste un slasher des années 80 avec une bagnole démoniaque. Maintenant, je me rends compte que c'est un peu plus que ça. Mais juste pour savoir, c'est plus anecdotique, c'est quelle a été la réaction de Stephen King par rapport à Christine ? Non, parce qu'il a lui-même fait son propre film en reprenant le principe de machine tueuse avec Maximum Overdrive. Donc j'aimerais juste savoir s'il a aimé, il a conspué, est-ce qu'il a repris des codes du film dans Maximum Overdrive ? Voilà.
Écoutez, alors, vous savez, King, en fait, il y a un truc qui est drôle avec Stephen King, c'est qu'il n'aimait que les mauvais films, de ses romans. Alors qu'il aimait pas Shining, atroce, bon. Par contre, il avait beaucoup aimé La Ligne Verte, bon. Il aimait pas Christine. Vous voyez, en fait, c'est le cas avec beaucoup d'auteurs, hein, généralement, on s'en fout. D'ailleurs, la question de la fidélité n'est jamais une question au cinéma, hein, je dis ça évidemment au passage. Je veux dire, il y a plein d'exemples de grands romans totalement trahis, en fait, par des auteurs qui ont fait des grands films ou des films mauvais. Mais King, évidemment, comme souvent, lui voyait la fidélité à, et c'est vrai que le fameux cadavre dont je vous parlais, les modifications, hein, sur toute cette backstory, cette histoire autour de Roland Lebay, c'est son frère qui vend la voiture au début et qui en fait dirige Christine depuis la banquette arrière. Lui, ça lui manquait beaucoup à Stephen King. Et d'ailleurs, une des premières phrases de Carpenter lorsqu'il se met à travailler sur le scénario, il dit on va passer d'une voiture avec banquette arrière à une voiture sans banquette arrière. Ce qui était une façon de dire il n'y a pas de banquette, il n'y a plus de cadavre. C'est fini. Et donc King n'a pas plus que ça apprécié l'adaptation, mais quand vous prenez les propos de King sur les films tirés de ses propres romans qu'il adore, généralement c'est plutôt les plus mauvais. C'est rare qu'il ait aimé un grand film. Alors Maximum Overdrive, écoutez, moi je ne l'ai pas revu depuis le moment de sa sortie. Oh, c'était un peu une catastrophe ce film, non ? D'ailleurs, il a jamais récidivé King en réalisation. Donc oui, sans doute qu'il a récupéré des trucs de Carpenter. Mais après, la question des machines qui tuent, etc. Il y a eu aussi un film qui s'appelle Duel en 71, qui a été aussi un film qui sont important sur la question des machines qui tuent. Si c'était que dans le cas de Spielberg, on va pas se mettre à parler de Duel, mais c'est complètement un autre propos que le Carpenter, quoi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour cette lecture. Effectivement, ça ouvre sur d'autres champs d'interprétation, donc passionnant. Moi, j'aimerais juste revenir sur la mise en scène et j'aimerais faire un petit flashback parce que moi aussi, je l'ai vu à l'époque de sa sortie et je me rappelle très bien, avant de l'avoir vu au cinéma, j'avais vu un extrait passé à la télé. À l'époque où je regardais encore la télé, et cet extrait, c'était la fameuse séquence où Arnie se retrouve devant la voiture qui est complètement détruite.
Show me.
Voilà, exactement, la séquence de Show me, Et je me rappelle, je l'ai vu, et après je l'avais enregistré sur une cassette V2000, pour ceux qui se rappellent un petit peu. Et je l'ai revu, et je l'ai revu. Et cette scène-là, elle m'est restée... alors forcément, c'est un extrait, c'est la première fois que je voyais Christine. Et bien qu'après, j'ai vu le film dans son entier, cet extrait m'est resté comme un extrait hypnotique. Et pareil, là aussi... Il m'a fallu du temps pour comprendre en fait pourquoi cet extrait était enfin ce passage est si hypnotique et là en le revoyant alors je sais pas si vous vous souvenez c'est le premier moment en fait de tout le film où on voit que la voiture a un truc particulier quoi qu'elle est capable de se régénérer et ce qui est passionnant je trouve dans la mise en scène là, de Carpenter c'est que dans une séquence qui on va dire chez un mauvais réalisateur, aurait été juste une séquence où on aurait vu la voiture, ah, tiens, elle est extraordinaire, elle est diabolique, elle est capable de se régénérer, etc. Eh bien, Carpenter, il en fait un truc mais qui va bien au-delà et qui enrichit complètement la séquence, parce que là, ce qu'on voit, bon, c'est presque une séquence, c'est presque un type qui est devant une nana et qui fait un striptease. Et donc, tout d'un coup, elle fait son show devant lui. Du coup, sa façon de dire « show me ». Mais en réalité, c'est même plus loin que ça, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a, dans les deux personnages, si je peux assimiler Christine à un personnage, une espèce d'abandon de l'un pour l'autre, et qui fait qu'on ressent tout d'un coup une relation très forte entre les deux et qui serait une relation d'emprise de la voiture pour Arnie et avec l'ambiguïté que peut-être que c'est lui qui la manipule. En fait, la séquence a une richesse dans sa mise en scène qui va au-delà de simplement faire un truc... un moment, une révélation, parce que pour nous, spectateurs, c'est aussi une révélation. Bon, c'est éblouissant. Ça, c'est la photo extraordinaire de... Je ne sais pas si c'est Dean Cundey qui
est le chef. C'est Donald Morgan qui a fait la photo.
C'est Donald, ouais. La photo de tout le film est extraordinaire. Pour ça, il y a un jeu sur la lumière, etc. Mais voilà, donc je voulais faire part de l'impression que j'ai eue sur cet extrait. Alors, je ne sais pas si,
vrai,
les gens ont eu la même impression.
Parce qu'en fait, pour ça, il faut presque revenir en fait, à la première séquence du film, enfin la fameuse séquence de Détroit de 57, qui est quand même la séquence qui pose tout. Puisque, cette séquence-là, elle prépare tout le rapport entre Christine et Arnie, et aussi d'ailleurs parce que vous parliez d'emprise, évidemment la relation vampirique, mais c'est presque une emprise réciproque et partagée, puisque Christine, en tant que, on pourrait dire que créature maléfique, vampirique, a besoin du sang, en l'occurrence l'amour exclusif, total de Arnie, pour pouvoir elle-même vivre, de certaine manière. C'est vraiment le principe du vampire. Hein. Bon. Mais on voit dans la séquence de 57, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a c'est une séquence avec que des hommes. Alors, c'est toujours assez drôle d'ailleurs de voir que Christine est quand même un film qui est un film de femme après un film intégralement sans, qui est The Thing. Sauf si on interprète The Thing comme la figure absolue du vagina dans Tata polymorphe. Ce qui est possible. Moi, j'avais déliré là-dessus à l'époque. Hein, donc, c'est tellement suspect qu'il n'y ait pas de femme dans The Thing que The Thing, c'est évidemment la femme. Mais bon. Et donc, on se rend compte que dans la séquence d'assemblage au début, on n'a que des voitures qui sont en phase de préparation. Et puis, de façon extrêmement étrange, on a cette Christine qui est toute seule. Ce qui n'est pas logique, d'ailleurs, parce que derrière elle, elles ne sont pas finies. Et devant elle, elles ne sont pas finies. Pourquoi est-ce qu'au milieu... Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été dans une chaîne d'assemblage. Mais j'imagine qu'on les prend dans l'ordre, les voitures. On ne se dit pas, tiens, on va faire celle-là, la numéro 7, la numéro 12... Non, Christine, elle a un statut à part. Alors déjà, il faut quand même dire une chose. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais enfin, ça me semble évident. C'est que Carpenter sort de l'échec de The Thing. Et donc, la séquence d'ouverture, c'est presque un acte manqué de sa situation en tant que cinéaste. Autrement dit, moi, John Carpenter, je suis obligé de réintégrer la chaîne d'assemblage des studios. Christine, c'est lui. C'est ça qui est intéressant dans Christine. Se voit que Carpenter, à la fois, montre Christine comme une figure du mal, mais s'identifie complètement à Christine dans la première séquence. Il est Christine. Hein. Je suis une espèce d'anomalie dans un système qu'il faut que je réintègre. Mais Christine est sur la chaîne, mais elle n'a pas envie d'y être, elle va faire autre chose. C'est la maverick de la bande, d'une certaine manière. Hein. Et Carpenter est le maverick qui revient à la Columbia pour faire un film. C'est une très belle idée, je trouve, comme cinéaste, hein, qui nous dit, bah, écoutez, voilà où j'en suis, moi, les gars. Je suis sur la chaîne d'assemblage, avec des ouvriers, avec gros cigares, peau grasse, fat, etc., etc. Voilà ce que c'est que les studios. Hein. Mais moi, là-dedans, je vais dérégler le programme. Donc, il adore Christine Carpenter aussi, parce que Christine, elle fout le bordel. Dans cet environnement général de parents un peu castrateurs, de ce collège un peu ridicule qui sort des années 50, les casiers, les filles attifées comme dans les années 50. On sent qu'il y a une jouissance de Carpenter aussi, d'où son ambiguïté. Hein. C'est à la fois une figure du mal, mais ce mal-là qu'incarne Christine, il est très content de faire voler en éclats ces soi-disant années 80-là. Hein. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'apparaît Christine pour la première fois par rapport à cette séquence du show me qui la redétaille, de cette manière, en fait, Carpenter la filme comme une femme fatale. C'est en fait, donc, l'anthropomorphisation de la voiture, elle est là dès la première séquence. C'est pas une bagnole qu'on est en train de voir. Il filme ses ailes, le pare-choc, le rétroviseur, ses calandres chromées, exactement comme une femme fatale. D'où là encore le renvoi aux années 50, parce que la femme fatale est une création du cinéma hollywoodien des années 50, tirée en particulier du film noir. Disons que Christine, c'est Barbara Stanwyck dans Assurance sur la bord. Vous avez tous vu Assurance sur la mort. Bon, c'est ça. Et donc, il emprunte une... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport aux années 50, il n'est pas uniquement, on pourrait dire, un rapport, on pourrait presque dire, une vision politique d'une décennie sur une autre. C'est un rapport extrêmement cinéphile aussi, puisque Christine est la femme fatale. Il la traite exactement comme une femme fatale, mais comme c'est, je sais pas, c'est Gilda, c'est Le Gant, vous avez tous vu la femme fatale, en fait, les lunettes noires de Barbara Stanwyck dans Assurance la mort, c'est le pare-brise noir de Christine. Et tout y est. Et en fait, elle agit comme une femme fatale. Et d'ailleurs, au début, elle arrive dans le film, sur la chaîne, comme une pin-up. Hein, et le problème, c'est qu'on pense que la pin-up, elle est disponible, qu'on peut foutre son bras dans le capot sans aucun problème, qu'on peut rentrer et souiller le siège. En fait, si vous oubliez si vous écrivez le scénario de la séquence d'ouverture de Christine et vous remplacez voiture par pin-up, vous n'y voyez que du feu. C'est vraiment ça. En fait, il ne filme pas... On voit une voiture, mais il la filme comme une femme fatale. Et c'est une femme fatale qui se rebelle contre, évidemment, le regard des hommes des années 50. Hein. Et dernière chose, bon, après, je vais faire un peu court parce qu'on peut en parler longuement, mais dans cette séquence d'ouverture-là, l'idée de cette séquence d'ouverture, elle est venue à Carpenter et à son scénariste d'une idée de Ernest Lehman. Est-ce que vous savez qui est Ernest Lehman ? Si, réfléchissez deux secondes. C'est quelqu'un de très connu, hein. Je suis pas en train de. Il n'est pas derrière les fagots, vous voyez. Ernest Lehman, c'est un scénariste extrêmement connu, c'est notamment l'auteur du scénario de La mort aux trousses d'Hitchcock. Hein. Et Ernest Lehman, un jour, il a une conversation avec Hitchcock, et donc comme ça, à bâton rompu, et il dit à Hitchcock : j'ai une super idée hier soir de séquence. On est sur une chaîne de montage de voitures, on part de rien. On met un boulon, une tôle, etc., etc. On suit la voiture. À la fin, elle est constituée, la porte s'ouvre, un cadavre en sort. Idée absolument géniale. Et Carpenter dit, mais on va filmer cette séquence. En fait, la séquence d'ouverture, ce qui s'y passe, en fait, c'est directement une séquence que n'a jamais tournée Hitchcock, mais qu'a raconté en fait, Ernest Lehman à Alfred Hitchcock, cette idée d'un cadavre qui sortirait d'une voiture en fait en train de s'assembler. Alors là, la différence, c'est que chez Hitchcock, il y a une dimension absurde, chez Ernest Lehman plutôt, à savoir comme on a tout vu et qu'on est parti de rien, il n'y avait rien, qu'à la fin il y a un cadavre, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Ça c'est une idée que je trouve assez géniale. Alors que Carpenter, lui, c'est pas l'absurde qui l'intéresse, d'une certaine manière c'est la dimension fantastique, hein, à savoir qu'il y a bien entre la voiture et le cadavre quelque chose qui s'appelle une âme, qui est Christine, qui a fait ça. Hein. Donc je voulais revenir sur cette anecdote de la séquence d'ouverture parce qu'elle est directement empruntée en fait de Carpenter à Hitchcock. D'ailleurs, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais les rapports, quand on parle de Carpenter, on parle beaucoup d'influence. On parle toujours de War Dogs, c'est vrai. On parle de John Sturgis, c'est vrai. On parle de John Ford, pas tellement. Enfin bref, de Louis Buñuel. Il y a plein de cinéastes qu'on peut convoquer. Jack Arnold. Et puis en plus, Carpenter étant un vrai cinéaste cinéphile, ses films sont remplis de citations, évidemment. Mais il y a un cinéaste qu'on traite pas, à mon avis, suffisamment, bizarrement, quand on parle de Carpenter, c'est Hitchcock. Hein, parce qu'il y a énormément de références aux films d'Hitchcock dans les films de Carpenter. Je sais pas, vous avez peut-être vu les aventures d'un homme invisible. Vous avez vu les aventures d'un homme invisible, hein, qui est un remake de La mort aux trousses. Vous regardez Zélive, il y a... C'est rempli de références à Hitchcock. Notamment, alors vous avez tous Zélive en tête à peu près. Vous vous souvenez quand John Nada en fait prend en otage la directrice d'une chaîne du câble, hein, jouée par Christy Alley, elle l'emmène dans les hauteurs de Beverly Hills. Non, vous avez raison. Comment elle s'appelle déjà? Ah, Meg Foster. Exactement. Et donc il l'emmène dans son appartement, sa maison de Beverly Hills. Et là, il lui dit, je sais pas si vous vous souvenez, voilà ce qui est en train de se passer. J'ai mis ces lunettes là. On est envahi par des extraterrestres, etc. Puis elle lui dit, bon, elle a la trouille. Elle lui dit, vous savez, si je mets les lunettes, je verrai ce que vous voulez que je voie. Bon, j'ai pas le temps de développer là-dessus, mais c'est monstrueux parce que c'est. Bon. Et donc là, il pense un petit peu se reposer. Elle lui offre un verre à boire. Et il accepte, il baisse la garde 2 secondes et elle lui fracasse une bouteille de whisky, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la tête. Il passe à travers la vitre, il dégringole en fait les petites collines de Beverly Hills et il se retrouve dans une espèce de sous une villa construite quasiment un peu sur pilotis à flanc de colline comme ça. Et c'est une séquence géniale parce que c'est une séquence qui commence avec une référence très très directe avec à Psychose. Je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois, toutes les stratégies d'Hitchcock pour ne pas montrer le visage de la mère dans Psychose, et notamment ses plombs en plongée. C'est le truc très très célèbre de l'histoire de la mise en scène, c'est qu'il prend en plongée comme ça le mouvement où les deux personnages sont, comme ça on ne voit pas le visage de la mère. Et lorsque Anthony Perkins prend le cadavre de sa mère, on pense que c'est vraiment sa mère, mais comme on est en plongée, on le voit pas. Et le cadrage en plongée chez Hitchcock, c'est toujours le cadrage de la menace. Hein, c'est vrai dans La mort aux trousses, c'est vrai partout. Et au moment où Carpenter lève la caméra, il emprunte directement ce plan-là à Psychose et on se dit, ça y est, c'est mal parti. La menace est dans la mise en scène avant que ça arrive. John Nada dégringole. Donc évidemment, il était chez les classes bourgeoises, il retombe au niveau des classes populaires, vieux truc géographique du cinéma. Et là, ils sont tous dans une espèce de villa sous pilotis, qui est une citation très directe de La mort aux trousses. Cary Grant, hein, avant d'arriver chez Van Damme, vous vous souvenez de la fin de La mort aux trousses, il se planque exactement comme John Nada. Mais alors, les exemples, je pourrais en citer The Fog et les oiseaux. The Fog est un film complètement sous perfusion des oiseaux, etc. Mais aussi dans Christine, hein, c'est ça que je trouvais intéressant de voir que Hitchcock est quand même une figure qui est dans les parages de John Carpenter en permanence, quoi.
Oui, donc j'avais 2 questions. C'était une par rapport à... Il y a 2 moments que je comprends pas, en fait. C'est à la fin du film, j'ai l'impression que Christine éjecte Arnie, le personnage d'Arnie, et que c'est elle-même qui le tue. Ça, je comprends pas. 2, je me souviens avoir lu le bouquin, j'étais en 4e, donc j'ai aucun souvenir. J'ai 44 ans, j'ai aucun souvenir du livre. À part, comme vous dites, le cadavre derrière qui parle, j'ai que ça comme souvenir. Mais du coup, je me demande le personnage de Denis par rapport à la trajectoire dont le prisme par rapport aux années 50. J'ai l'impression que c'est un personnage terne. Est-ce qu'il est dans le bouquin? Parce que j'ai l'impression qu'on arrive dans le film grâce à lui, qu'il y a des ellipses où, dès que c'est un peu intéressant, à travers l'évolution de Christine, lui, il est complètement évacué. Il se casse la jambe, etc. Et c'est un peu le personnage terne, blondiné, qui joue au foot. Donc, par rapport aux années 50, je vois pas l'évolution. Lui, je le comprends pas par rapport à ce que vous avez dit, du coup. Voilà.
Bah, en fait, le personnage de Denis, c'est, en fait, d'une certaine manière, c'est, enfin, vous avez raison quand vous dites c'est le personnage terne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout, vous l'avez compris. Le film commence en nous disant le héros du film, c'est lui, grosso modo. Mais le héros, en tant que caricature du cinéma, pour le coup, hollywoodien des années 50 et des années 80. Le type, il est, c'est presque un archétype, en fait. Absolument. Oui, bien sûr. Mais parce que le sujet du film, c'est pas lui, et que celui qui va devenir, on pourrait dire, il y a pas de héros masculin, en fait, dans Christine. Hein, il y a une héroïne, d'une certaine manière. Il y a peut-être une héroïne noire qui serait Christine, mais il n'y a pas de héros masculin dans le film. Le couple qui forme, j'insiste pas du tout sur la dimension homosexuelle du rapport entre les deux, qui était plus présent dans le roman. Hein. Il y a plusieurs fois, les deux sont ensemble, et Denise prend sous son aile Arnie, en tout cas dans la première partie, avant la transformation d'Arnie, la première partie du roman. Et notamment, il y a un passage assez connu du roman où, en fait, Arnie est complètement effondré. Il vient de s'engueuler avec ses parents. Denise le prend dans ses bras. Et il y a deux jeunes étudiantes qui, dans l'allée, passent, s'arrêtent au niveau de la vitre. Elles les traitent. Dans le roman, on utilise beaucoup le mot PD, hein, ce qui est, y compris même dans Cinéma 15 années 80, ce qui va ensuite complètement disparaître. Et donc, il y a une espèce d'homosexualité complètement latente, on pourrait dire, dans le roman, qu'a complètement dégagé Carpenter pour, de toute manière, pour pas brouiller le sujet qui est l'intérêt du film. C'est pas le sujet du tout. Et vous avez raison, Denise, c'est une sorte de quand je dis d'archétype, c'est presque de caricature, de beau gosse. Le côté terne est intéressant parce que, justement, au début, on pense que c'est plutôt lui qui va être le héros, qui va aider, etc. etc. Et en fait, Arnie, c'est plutôt le personnage qui prend la puissance, mais pour devenir un héros complètement noir. Parce que Arnie, on ne peut pas dire de Arnie que c'est un héros, hein. Si ce n'est qu'il va devenir le super-héros des années 50. Et devenant un super-héros des années 50, il devient un personnage abject, vampire. Alors c'est un romantique, hein. On peut penser ça aussi, d'une certaine manière, hein. Je veux dire, cette phrase, il dit, quand il est avec Lee, il discute, je ne sais plus ce qu'il lui raconte, ça a beaucoup manqué, tu parles de qui, de moi, il fallait que tu me dises des choses comme ça. Il lui dit, non, je parlais de Christine. Hein. Il y a tout un truc autour de ça. Mais vous avez raison, Denis, c'est un personnage terne, qui incarne le côté terne, qui intéresse Carpenter, de cette espèce de héros de pacotille, on pourrait dire, des années 50, transplanté dans les années 80. Jusqu'au symbole, évidemment, la jambe plâtrée, bon là, voilà, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, d'une certaine manière, etc. Mais ça me permet quand même de revenir juste un truc sur cette question du temporel, qui, moi, là, pour le coup, me semble intéressant, parce que, en fait, le film se passe en 78, si on suit le récit du film. Bon. Mais très objectivement, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, moi quand je vois Christine, j'ai l'impression que c'est un film qui n'appartient pas, disons, fin 70, début 80, et qui n'appartient pas complètement aux années 50. Il y a les tubes de rock de la voiture, d'accord, il y a, on entend même Beast of Burden, à un moment donné, des Stones, je ne sais pas si vous l'avez entendu, hein, plus la musique de Carpenter. Et donc je pense que toute la puissance pour moi de Christine, c'est d'être un film qui ne sait pas, mais c'est la critique de l'époque véritablement, hein, qui ne sait pas à quelle époque il appartient véritablement. Moi, quand je vois le collège de Christine, je me dis, en 78, il n'y a plus aucun collège américain qui ressemble à ça. Personne. Aucune fille est habillée comme ça, les mecs ne se comportent pas comme ça. Là, on est, c'est Fonzie, c'est Happy Days. Hein, d'ailleurs, quand Stephen King appelle son héros, son personnage principal Arnie, c'est en hommage à la série Happy Days. Hein, les Happy Days, donc l'âge d'or, les années 50. Bon. Donc, il y a quelque chose qui on sent que je trouve ça génial, moi, dans le film. Cette espèce d'étrangeté. On a l'impression que rien ne coïncide vraiment avec l'époque. On est soi-disant à l'aune des années 80, mais on a l'impression d'être dans les années 50. Voyez. Alors après, il y a des signes qui nous disent, bah non, on n'est pas les années 50, parce qu'on a entendu telle voiture, il y a une date qui nous a dit 78, mais ça, c'est souvent chez Carpenter, c'est l'ironie. Dire quelque chose pour nous dire, bah, vous voyez, finalement, maintenant, est-ce que ça ressemble vraiment à une vie de 78? Réponse non, c'est des comportements des années 50. Et pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est le personnage du méchant, enfin, si on veut, Buddy Rapperton. Alors là, je vous renvoie à un philosophe américain qui a beaucoup travaillé sur la pop culture américaine, et je ne sais pas si vous avez envie un jour de lire ça, qui s'appelle, il a écrit plein de bouquins dont, alors le titre est chiant mais le livre l'est pas, ça s'appelle le capitalisme, non, ça s'appelle le postmodernisme ou le capitalisme à l'heure du capitalisme tardif. Bon, et il a un grand chapitre dedans justement sur cette relation des années 80 aux années 50, et lui il prend deux films en fait pour analyser ce rapport là, ce rapport pathologique. Et il prend donc Dangereux sous tout rapport de Jonathan Demme et Blue Velvet de David Lynch. Il dit que c'est deux films qui traitent exactement, ce qui est vrai, hein, qui traitent absolument de ça. Et pour ceux qui ont vu Dangereux sous tout rapport, je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage du méchant que joue Ray Liotta. Vous l'avez un peu en tête, hein? C'est un personnage, si vous voulez, qui est Buddy Rapperton. c'est quelques 2, 3, 4 ans plus tard, c'est Buddy Riperton. Blouson en cuir, cheveux gominés, couteau à cran d'arrêt, jean retroussé. Quand on voit en fait Ray Liotta dans le film de Jonathan Demme, c'est exactement comme quand on voit Buddy Riperton débarquer dans le lycée, dans Christine. Et Jameson, il écrit quelque chose de génial à propos de ce personnage de Ray Liotta. Il dit « Dangereux sous tout rapport » est aussi un film qui est obsédé par la question des années 50, c'est un film de 88. Et il dit « Mais rien ne tourne rond dans Dangereux sous tout rapport et tous les personnages sont tous des archétypes issus des années 50, mais ce ne sont pas les vrais. » Ça, c'est hyper intéressant. Il dit, ce ne sont pas les vrais. Il dit, ce sont finalement des sortes de simulations de ces personnages-là. Autrement dit, ce que nous dit Jameson de Ray Liotta dans le film de Jonathan Demme, on pourrait le dire exactement de Buddy Riperton dans Christine. En fait, il est trop caricatural pour être vrai, ce personnage. Et c'est là qu'on doit avoir la puce à l'oreille. On se dit, mais Buddy Riperton en 78, à l'époque de Warriors de Walter Hill, ça n'existe pas des gens comme ça. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas. Et donc, Carpenter va tellement loin, on pourrait dire, dans la caricature du personnage. Il a tous les codes du bad guy des années 50. Il est ridicule. Il est complètement anachronique. Autrement dit, ça participe aussi du flottement temporel du film qui, en tant que nous, spectateurs, nous contraint à nous interroger. Mais de quelle époque est le film que je suis en train de regarder? Et quand on commence à se poser cette question-là, on rentre dans Christine. Si on ne se pose pas cette question-là, on reste à l'extérieur de Christine. Enfin si, comme vous disiez tout à l'heure, on voit un film de slasher, de bagnole, bon, c'est pas très intéressant. Mais comment on commence à se dire, il y a un problème temporel dans Christine. Quelque chose tourne pas rond dans le film. Objectivement, quand vous le regardez, il y a quelque chose tourne pas rond. C'est-à-dire, on est où on sait, est-ce que ce même film aurait pu être fait en 57? Réponse oui. Alors c'est pas normal, puisqu'on est en 78. Alors, donc est-ce que c'est un film contemporain? Ou est-ce que c'est un film, en fait, qui nous fait croire qu'il est contemporain alors qu'il vient du passé? Et quand on commence à rentrer dans cette question de Christine, là, on rentre dans la puissance du film. Et là, on rentre dans ce que raconte Christine, qui nous interroge là-dessus. Il dit, étudiez la question temporelle dans le film. Hein, à quelle époque appartient ce film? C'est quelle décennie contre quelle autre? Est-ce que les deux se mélangent? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce que les deux se mélangent? Réponse, évidemment, énorme. Oui, Arnie. Il n'a pas compris que dans les années 78, pour devenir un héros, il ne faut pas devenir comme en 58. Hein ? Et donc le film est génial de ce point de vue-là, parce qu'il nous donne en permanence tous les éléments. Attention, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas tonitruant dans le film, hein, mais c'est la force des grands cinéastes. C'est des petites touches. Et quand on les met bout à bout, à commencer par Buddy Riperton, hein, Jameson écrit de Ray Liotta dans le film de Jonathan Demme, c'est pas le mal, c'est une simulation du mal. Ça, c'est vachement intéressant. Buddy Riperton, c'est pareil. C'est pas le mal, c'est une simulation du mal des années 50. Hein. Et ça, alors, pourquoi je dis ça? Après, j'en termine parce que ça va vous saouler. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que un des grands reproches que fait Carpenter aux années 50, et c'est pas le seul, hein, on parlait de Jonathan Demme, il y a beaucoup de cinéastes qui ont vécu leur maturité ou le début de leur maturité dans les années 70, qui ont, pour eux, les années 80, c'était l'enfer. Donc, il y a ceux qui ont disparu, ceux qui sont couchés et ceux qui ont filmé contre. Voilà, il n'y en a pas 36. Bon. Carpenter fait partie de ces gens qui ont filmé contre. Et ce que raconte, en fait, Jameson, et je trouve ça assez génial, il nous dit, le problème, c'est que dans la façon dont les années 80, dont l'Amérique des années 80 va s'emparer des années 50, c'est une façon très perverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne veut prendre que la surface des années 50. Elle veut prendre les années 50 sans l'histoire des années 50. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur le fait que Carpenter a vécu, lui, l'histoire des années 50. Le lynchage, l'exécution des époux Rosenberg. Vous replongez dans l'histoire américaine des années 50. C'est pas uniquement les belles bagnoles, la construction des highways, le frigidaire, la Paname. Vous voyez, toutes ces espèces de catalogues aujourd'hui intégrés de la pop culture américaine des années 50, des designs, etc. On a l'impression que c'est formidable. Et Carpenter nous dit, mais moi, j'ai envie de prendre tout ça, mais je veux aussi prendre l'histoire des années 50. Et l'histoire des années 50, elle est en grande partie sombre. Et ce que nous dit Jameson, il nous dit, tout le problème, c'est que tous ces films des années 80 qui vont prendre les années 50, ils prennent que des archétypes. En fait, ils prennent des surfaces, mais ils prennent pas on pourrait presque dire, ils prennent les items des années 50, mais moins l'histoire des années 50. Et il dit, nous, on va vous rappeler ce que c'est que l'histoire des années 50. Autrement dit, c'est un Buddy Riperton, c'est une version publicitaire mais vraiment publicitaire du mal des années 50. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, pour moi, c'est un des coups de génie du film. Et on y rentre par les petites touches très étranges. Quand je vous disais tout à l'heure que le film a été tourné, et je pense que vous le repérez d'ailleurs, à peu près dans les mêmes endroits qu'Halloween, on voit bien que Halloween est aussi un film très étrange de ce point de vue-là. C'est un film qui est censé se passer en 78, qui commence en 63, comme par hasard, l'année soi-disant l'innocence perdue. Alors, je ne vais pas commencer à délirer, sinon ça va prendre encore 4 heures, mais Halloween est aussi un film qui ouvre le commentaire de Carpenter sur les années 50. Michael Myers, il ne vient pas de nulle part. Et en plus, c'est un personnage qui, lui, reste bloqué aux années 50. Michael Myers. Il a 8 ans. Enfin, bref. Et donc, une fois qu'on saisit cette question de l'indécidabilité temporelle de Christine, on rentre dans la puissance du film. Et ça, tout ça, Carpenter, c'est totalement voulu. Et moi, quand j'ai vu le film la première fois, je me souviens que Buddy Rapperton, il me semblait un peu too much, quoi. Je me dis, ah, quand même, en plus, il a une bagnole, il a une hot rod. Enfin, on se croit vraiment dans les mauvais sous-Corman des années 50. Il manque plus que le dragster. Je veux dire, American Graffiti. En fait, Christine, c'est l'anti-American Graffiti. Pour faire court, il faut choisir son équipe. On est côté American Graffiti ou on est côté Christine. Moi, je suis côté Christine. Après, à vous de choisir. Mais c'est vraiment deux films, l'un et le contraire de l'autre, d'une certaine manière. Et moi, quand je vois à l'époque Christine, je trouve que Buddy Ray, je saisis pas la dimension, on pourrait dire, critique de cette caricature-là. Vous voyez ? Pour moi, c'est un défaut du film. Mais ouais, Buddy Rapperton, il est complètement ridicule. Dès qu'il ouvre la bouche, il est ridicule. Il y a tellement pas de complexité. Mais pourquoi ? Parce que c'est une pub. Et Carpenter le traite comme une version publicitaire d'un personnage. C'est pas un personnage, Buddy Rapperton. C'est un fantasme de ce qu'a été les années 50, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, quand le responsable du collège arrive pour l'engueuler, ça fait pchit la révolte. Ça, c'est vachement intéressant. Bon, si cette jeunesse-là, son niveau de révolte s'arrête lorsqu'un responsable du collège vient parce qu'il a crevé un yaourt, voilà, on est safe. C'est ça que ça raconte, Christine, quoi.
Oui, bonsoir. Alors, vous évoquiez du coup en début de séance ce rapport de certaines parentés entre Christine et Halloween. Soit du coup, j'ai eu un peu peur puisqu'à la fin de la dernière question, j'ai cru que vous alliez me couper un peu l'herbe sous le pied. Mais est-ce qu'on du coup, on pourrait pas y voir d'autres similarités, enfin la parenté connectée à autre chose qu'à juste le fait que ça a été tourné aussi dans le même décor qui a servi à Dunfield. Et je pense notamment au point commun que pourrait avoir du coup le personnage de Christine et de Michael Myers.
Oui, oui, non, mais bien sûr, vous avez déjà la réponse dans la question. Alors, le point commun, enfin, il y en a plein. Bon, pour faire court, les personnages féminins, d'une certaine manière, Laurie, enfin, Jamie Lee Curtis dans Halloween, elle est de la même famille que Lee dans ce film-là. Après, on voit bien aussi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que Carpenter a un rapport ambivalent à Christine, enfin la voiture, le personnage. Je pense à la fois, il est très content au début que Christine massacre ces gens-là. Et puis, on sent que Carpenter n'a pas un amour fou furieux pour Buddy Rapperton et sa bande. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est que je pense que, n'oubliez pas qu'au début, Carpenter s'identifie en tant que cinéaste un peu marginalisé, qui n'a pas eu de succès, etc., obligé de réintégrer le studio, s'identifie à Christine, et d'une certaine manière, jouit du bordel que va créer Christine. Et Carpenter, il est du côté de ce chaos-là. Ça, c'est une évidence. Bon. Après, une autre figure féminine émerge qui, elle, peut faire penser plus à Laurie. Après, le rapport, il est là, pour le coup, évident. Enfin, évident. Vous parliez de Michael Myers, dont on peut penser qu'il est la première figure du mal chez Carpenter. En fait, c'est pas complètement vrai. Vous avez vu Asso? On pourrait dire que la première figure du mal, en tout cas pour moi, dans le cinéma de Carpenter, si on veut chercher comme ça une généalogie, une origine du mal chez Carpenter, c'est pas dans Dark Star, évidemment. Dark Star est un film un peu particulier. Asso est son premier film professionnel. La première figure du mal, c'est l'un des membres des Street Thunder, appelé comme ça sur le générique, mais jamais appelé comme ça dans le film, qui est l'homme blond qui va tuer à bout portant une petite fille qui va chercher sa glace à la fraise. Bon, alors, bon, il faudrait presque projeter Asso parce que ça, c'est trop long. Mais Asso est un film qui est complètement schizo, qui est divisé en deux parties. Une première partie qui semble emprunter la voie du thriller, on pourrait presque dire urbain, presque blaxploitation, critique sociale, politique de l'époque, urbain. Ouais, on est vraiment dans cette espèce de schéma-là, d'une certaine manière. Et puis le film, donc plutôt réaliste, série B, réaliste ou autre. Et le film bifurque complètement à partir de la mort de la petite fille. Donc séquence, on le sait, qui a été censurée dans beaucoup de pays, etc., etc. À partir de là, on passe d'un, on pourrait presque dire d'un thriller urbain presque post-blaxploitation à film social, si on veut, à un film fantastique sur la question du mal. Et donc, et d'ailleurs, le film d'un seul coup perd complètement ses repères par rapport au réalisme. Et là, on rentre dans un monde qui est plus du côté de la nuit des morts vivants, d'où sort cette horde de gens qui vont attaquer le commissariat. Donc, le film a complètement changé de registre à Saw. C'est vraiment un film bipolaire qui est extrêmement marrant. Bah, pourquoi ? Parce que Carpenter est en train de devenir ce qu'il est au milieu du film. Première partie du film, il fait un bon travail. Il rend hommage. D'une certaine manière, Rio Bravo, il va rendre son hommage à Howard Hawks. Il montre qu'il s'est filmé pour pas cher, etc. Et puis au milieu du film, on a presque le sentiment qu'il découvre sa substantifique moelle. Le moment chimiquement pur de Carpenter dit ah ouais, l'homme blond, ça, il y a que chez Carpenter qu'il y a un personnage comme ça. Et là, évidemment, l'homme blond, c'est donc le premier. Homme marmoréen qui dit pas un mot, qui tombe comme un zombie, il est tout blanc, il est mutique. C'est Michael Myers. Vous mettez un masque sur l'homme blond de Assaut, vous avez Michael Myers. Donc la première figure du mal dans le cinéma Carpenter, c'est vraiment ce personnage-là d'Assaut. Et puis arrive Michael Myers, et mais on pourra pas se dire Christine, The Thing, enfin le brouillard, enfin The Fog, tout ce qu'on veut, c'est la longue lignée du mal dans ces films, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ça ? Alors, je vais essayer de pas être trop long, mais ce que raconte la naissance du mal dans Assaut, et qui sera très utile pour Myers dans Halloween, c'est que la naissance du mal, c'est d'un seul coup, on pourrait dire, on est passé d'un mal typique 70s, en gros une origine sociale, politique, Toby Hooper, Larry Cohen, George Romero, quoi. Les zombies, c'est nous. Alors, il n'y a pas plus. Les zombies de George Romero, c'est le contraire radical du mal chez Carpenter. Et pourtant, ils se connaissaient, ils s'appréciaient, etc. Mais ils ont, en termes de vision, d'un point de vue métaphysique, politique, deux visions radicalement opposées l'un et l'autre. Bon. Donc, cette question du mal, d'une certaine manière, à partir du moment où le blond tue la petite fille, on voit bien qu'on ne peut plus dire oui, mais bon, c'est parce qu'il a une enfance malheureuse. Ou il s'est fait sodomiser par son père, ou parce qu'il est né au Texas. Ça ne suffit plus. Quelqu'un qui fait ça, il est passé du côté d'un mal pur, d'un autre type de mal. Et là, autrement dit, il est passé du côté du mal carpenterien. Le mal carpenterien, ce n'est pas un mal politique, social, ce n'est pas un mal progressiste, pour faire court. C'est un mal puritain, c'est un mal radical. Bon. Et donc ça, on le voit à partir de Assaut. Michael Myers... Souvenez-vous, même opération. Au début, quelqu'un, en plus on est mis dans l'œil du tueur, on furette autour de la maison, il assassine, on comprend que c'est sa sœur, Judith, etc. Il sort, paf, on enlève le masque et on tombe sur un gamin de 8 ans. Bouille d'ange, formidable, etc., etc. Bon. Et là, moi c'est un truc qui m'a toujours passionné. Mais alors ça, dès il y a déjà 25 ans, je me souviens, sur Halloween, j'ai fait mon mémoire de DEA sur Halloween. J'avais fait chier les profs là-dessus. Bref. Et je me disais... que Halloween tient dans ce plan. Le moment où le jeune Michael Myers est démasqué, je ne sais pas si vous voulez de cette séquence-là, hop, les parents arrivent. Les parents d'Halloween ne sont pas là. C'est aussi un truc extrêmement intéressant sur une génération qui est absente. Elle arrive trop tard, elle arrive pour constater que le gamin est un meurtrier et la fille, elle est morte. Bon. Et les parents arrivent, ils enlèvent le masque. Et là, la caméra, elle recule extrêmement lentement, elle monte dans les airs. Et c'est un moment qui est totalement artificiel dans la mesure, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit les deux parents qui restent à côté de Michael Myers, qui le regardent et qui ne font rien. Dans la vie, ça n'existe pas. On arrive, on voit son gamin, on lève le masque, il a des yeux exorbités, il tient un couteau ensanglanté, on ne reste pas 3 secondes à le regarder comme ça. C'est ce que fait Carpenter. Mais comme c'est un génie, personne ne se dit « c'est pas possible, il faut aller le secouer le gamin, là. Il faut aller voir ce qui se passe dans la maison ». Pas du tout, parce qu'évidemment on est en train de passer à un niveau mythologique à ce moment-là, c'est ce que fait Carpenter. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce mouvement de caméra ? C'est qu'en s'éloignant en fait, du visage de Michael Myers, Il nous empêche, nous, en tant que spectateurs, alors c'est là qu'on voit que c'est vraiment pas un cinéaste des années 70, pour le coup, il nous empêche la moindre empathie à l'égard de Michael Myers. Il nous dit non, non, on va pas aller voir le visage de ce gamin, on va pas être touché par ses yeux en train de pleurer, par son expression, sa bonne bouillon, on va s'en éloigner. Cette manière et ce mouvement-là est le mouvement qui permet à Carpenter de s'éloigner de l'humanité de Michael Myers. À partir de là, c'est fini, c'est le mal. Mais quand je dis le mal, au sens M capital, c'est-à-dire que le mal, c'est l'autre de l'humain. C'est pas un humain, c'est pas Romero, c'est pas les zombies, c'est nous. C'est le contraire chez Carpenter. Et donc, on voit bien que Christine, elle, il y a deux niveaux, en fait, dans le film. Il y a tout ce qu'on s'est raconté sur le niveau, on pourrait dire, critique, politique de Christine, métaphore, ok. Mais ça, c'est jamais suffisant quand on voit les films de Carpenter. Chez Carpenter, le mal, il est métaphorique de quelque chose, mais il est aussi le mal pur auquel croit vraiment John Carpenter. Souvenez-vous, dans Halloween, quand Donald Pleasant discutait avec l'infirmière au début, dans la bagnole, il lui dit ah « oui, alors il faudrait peut-être, le pauvre, il a été enfermé. » Et Donald Pleasant se dit à l'infirmière, elle lui parle comme une actrice, comme un personnage des années 70. « Oh, quand même, le pauvre, il faut peut-être le soigner. » Je veux dire, c'est la, voilà, en gros, c'est la société qui a fait que Michael Myers, il a tué sa jeune sœur. Et l'autre lui dit « Non, vous n'avez rien compris, c'est le démon. Dans l'œil de cet homme-là, il n'y a rien. » Donc, et là, on se dit, ah ouais, Carpenter, il est pas du tout des années 70. Pas du tout. Et je dis ça parce qu'on voit bien que Christine, si on enlève la dimension politique, la vision critique ou autre, c'est encore une fois une figure du mal. Avec toujours cette idée, le pare-brise, moi qui me plaît beaucoup, indépendamment, le pare-brise noir, oui, ça permet de savoir, de pas savoir si Arnie Cunningham est ou pas dans la voiture. Ouais, mais bon, ça c'est un peu court. C'est surtout une forme d'opacité. Hein, l'autre disait, à quoi se vérifie ? Qu'est-ce qui fait que l'humain est humain ? C'est son regard. Je veux dire, moi j'en parle un peu d'ailleurs dans le truc que j'ai écrit là, sur le contre-champ total d'Halloween, c'est Massacre à la tronçonneuse. Hein, Leatherface, il vient d'accrocher Pam sur un crochet, c'est pas rien quand même. Bon, il a fait des trucs pas terribles, Leatherface, pendant au début du film. Mais Toby Hooper, à un moment donné, donc lui, après ce premier meurtre, c'est la première fois qu'on reste avec Leatherface, qui est quand même pas un type hyper ragoûtant. Il trépigne dans l'appart, il va s'asseoir près d'une fenêtre, et là il se prend la tête dans les mains, il est comme un gamin qui a fait une bêtise. Même dispositif que dans Halloween de John Carpenter, si ce n'est que Toby Hooper, il s'approche du visage de Leatherface. Et ça change tout. En deux mouvements de caméra, vous avez deux visions du cinéma qui s'opposent. Enfin, je parle des grands cinéastes, hein. C'est ça. Et là, Toby Hooper s'approche du visage de Leatherface, et d'un seul coup, on a de la peine pour lui. On se dit, ah ouais, en fait, c'est pas un monstre, c'est aussi une victime. Et donc, qu'on s'appelle Leatherface, qu'on soit découpé par lui avec de la machette ou la tronçonneuse ou autre, Massacre à la tronçonneuse est un film où il n'y a que des victimes. Dans les films de Carpenter, ce n'est pas vrai. Dans les films de Carpenter, il y a une ou des figures du mal à l'état pur et des humains, c'est-à-dire, qui tentent, pas de sauver l'humanité, parce qu'elle ne peut pas être sauvée, mais qui tentent de retarder la fin de l'humanité. C'est vraiment ça, la grande question chez Carpenter. Pardon, je suis un peu long sur la réponse.
Oui, bonsoir. Je voulais rebondir sur Jack Burton qui a été évoqué tout à l'heure.
Il faut voir ça avec notre ami hein, qui a copieusement insulté Jack Burton.
Mais dans mon souvenir, je l'ai vu il y a longtemps, dans ce film Carpenter démontait le héros des années 80. Et par contre, je me demandais quand même s'il y avait aussi ce sous-texte dans Jack Burton par rapport à la temporalité, par rapport aux années 50. J'avoue que je l'ai vu il y a un peu longtemps. Est-ce qu'il y a aussi ce...
Oui, non, enfin, oui, après, on est en 86 quand il fait Jack Burton. Il le fait pas vraiment pour ces raisons-là, mais le personnage, en fait, de Jack Burton, donc ce camionneur, qui, en fait, est obsédé par récupérer son camion qui lui a été volé au Chinatown, bon, qui s'habille comme John Wayne, hein, c'est aussi un peu une récurrence, d'ailleurs, des films de Carpenter, dans The Thing, MacReady, enfin, Kurt Russell est habillé comme, un peu comme John Wayne, hein, et c'est vraiment le... Alors, c'est pas inintéressant de se dire que le héros, c'est John Wayne. Alors après, bon, on n'a pas le temps de passer là-dessus, mais c'est lequel John Wayne dont on parle ? Est-ce que c'est le John Wayne de La Chevauchée Fantastique, 39, ou est-ce que c'est le John Wayne de Ethan Edwards dans The Searchers de Ford ? C'est pas le même. Bon, bref. Tout ça pour dire que Jack Burton, oui, c'est aussi un... Moi, je pense que là, pour le coup, c'est un truc sur... C'est une critique de... enfin, des années 80. Du héros, d'une certaine manière, du héros américain tel qu'effectivement les années 80 tentent de le reconstruire. Jack Burton, c'est un idiot intégral. Un idiot intégral. Et là, pour le coup, et qui a toute, là, on pourrait dire, la panoplie du héros américain. dire, il est drôle, il a des muscles, il a un Marcel, il a un camion, il sort des blagues, il est ça, bref, il a une mitraillette, il a plein de trucs. Mais ce qui, dans un film américain des années 80, permet de devenir un héros, là, ça ne sert plus à rien. Il est dépassé. Il est ridiculisé par une autre civilisation, en l'occurrence la civilisation chinoise, qui, elle, va, en fait, est la vraie héroïne, en fait, du récit. Et c'est aussi, on pourrait dire, quelque chose que Carpenter, il s'amuse beaucoup, en même temps, c'est une comédie, hein, Big Trouble, enfin, Les Aventures de Jack Burton. Mais c'est aussi la sévérité de Carpenter aussi à l'égard, on pourrait presque dire, de Jack Burton, c'est que c'est un matérialiste pragmatique. Il ne croit à rien à part son camion, l'argent, le whisky et draguer les femmes. Voilà. Or, Carpenter, c'est quand même un mystique. Car quand je disais que c'était un puritain, je dis ça pas puritain au sens d'aujourd'hui où on est des puritains. Non, c'est un puritain au sens où il croit, le simple fait qu'il croit dans l'existence d'un mal qui est le contraire de l'humain fait de lui en fait un puritain. D'où le fait qu'il y a autant de prêtres, d'églises, de bigots dans ses films. La religion, elle est très très présente chez Carpenter. Non pas pour être uniquement critiqué, non pas non plus pour être valorisé, mais pour dire, dans cette espèce de lutte contre le mal radical, hein, parce qu'il y a du mal sociétal, mais il y a aussi du mal radical, la religion en fait elle est là parce que elle peut donner par moment aux individus les moyens ou les preuves qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'existence du sacré qui existe. Et quand même la religion a été dévoyée, tous les films de Carpenter le montrent à non plus finir, Fogg, etc. L'agnostique, il a besoin par moment de croire qu'il y a un truc plus grand que lui pour pouvoir lutter contre le mal. C'est-à-dire, s'il n'y a que l'humain, il va se décourager. C'est trop difficile. C'est à ça que ça sert la religion chez Carpenter. Et donc, Jack Burton, c'est vraiment on pourrait presque dire, c'est le héros américain, du cinéma hollywoodien des années 80, mais dont Carpenter montre l'inanité, l'inefficacité absolue, hein, parce que le film s'ouvre avec, je sais pas, oh non, vous m'avez dit que vous l'aviez vu là, il y a longtemps, hein, mais le film s'ouvre avec une séquence à la massacre de Fort Apache de Ford, avec un personnage qui est le personnage de Lo Chen, le conducteur de bus, un peu magicien sorcier, qui explique en gros à un juge en lui disant, ouais, le grand héros de cette histoire, c'était Jack Burton. Donc le film s'ouvre avec ça. C'est lui qui a fait que on s'en est sorti parce que ce qu'aime beaucoup Carpenter aussi dans la civilisation chinoise, c'est leur croyance réelle dans l'existence d'un monde parallèle. Et ça résonne pour lui par rapport à cette question du mal là. Hein. Mais bref, il dit voilà, il a été génial, etc. Alors je rappelle juste que cette séquence là a été imposée par les studios, parce que quand les studios découvrent Jack Burton, ils le produisent un peu dans le moment Indiana Jones. Ils disent, on va profiter du succès d'Indiana Jones, on va faire Jack Burton. Bon, évidemment, c'est pas bien connaître Carpenter, et il fait l'anti-Indiana Jones. C'est vraiment l'Indiana Jones pour ridicule. Vraiment, bon. Et donc, les studios sont un peu furax, parce qu'ils se rendent compte quand même que dans le récit, Jack Burton, c'est un boulet qui mitraille là où il faut pas, il se prend un platon sur la tête, il comprend rien à rien, etc. Que tout se fait par les sidekicks chinois, etc., etc. Ils disent, non, mais ça va pas, le héros, c'est Jack Burton dans le film, mais en fait, il est ridicule. Et donc, ils imposent à Carpenter un prologue. Et Carpenter, évidemment, va filmer ce prologue dans lequel celui dont on va se rendre compte qu'il est le héros, et d'ailleurs dans le film, c'est lui qui porte le Magnum 44, dit « bah non, c'est Jack Burton qui a tout sauvé, etc. » Mais en fait, cette séquence voulue par le studio, en fait, est complètement contre-productive, puisqu'en nous disant avant que le film commence, « Attendez, le super-héros, c'est lui », évidemment, on pourrait dire la nullité de Jack Burton après n'est que, de certaine manière, renforcée, quoi, si vous voulez. Donc c'est aussi, Jack Burton, vraiment un film là-dessus. Hein, c'est le héros des années 80, mais à la fois, il y a le héros sympathique, machiste, cool, enfin de Rambo 2 à Indiana Jones, il y a plusieurs manifestations de ça. Lui, c'est le héros incompétent. Autrement dit, ce que nous raconte Carpenter, c'est que pour être un héros, il suffit pas d'avoir une mitraillette, des gros muscles, une casquette, un dollar dans les poches et de voter Ronald Reagan. Pour être un héros, c'est une disposition, c'est un code d'honneur, c'est autre chose d'être un héros. Et Jack Burton se délire comme un héros, mais en fait, il l'est pas. C'est autre chose d'être un héros américain que ces héros hollywoodiens que le cinéma nous balance comme ça ad libitum.
Merci beaucoup.
Écoutez, merci pour votre attention. Mmh. Merci Antonin.
On rappelle que vous êtes évidemment invité à venir demain. Je crois que toi, Jean-Baptiste, tu seras là dès vers 13h à la convention, à l'espace rencontre au premier niveau. Et vous pourrez poursuivre les propos de Jean-Baptiste sur Carpenter à travers la lecture du bouquin Back to the Bone aux éditions Amagnani. 23 euros. Je vends aussi la première édition du bouquin, 150 €, épuisé. Merci à toutes
Merci
et à
beaucoup.
Tous.
Let me tell you a little something about love, Dennis. It has voracious appetite. It eats everything. Friendship, family. It kills me how much it eats. But I'll tell you something else. You feed it right, and it can be a beautiful thing, and that's what we have. You know, when someone believes in you, man, you can do anything, any fucking thing in the entire universe. And when you believe right back in that someone, then watch out, world, because nobody can stop you, then nobody, ever.
And you feel this way about Lee?
What? Fuck no. Talking about Christine, man. No shitter ever came between me and Christine. Now you watch this.